Il est 7h.
J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire.
Ça, c'était Emmanuel Macron quand il a annoncé le confinement le 16 mars dernier. L'hypothèse est à nouveau sur la table. Le chef de l'État réunit deux conseils de défense restreints aujourd'hui et demain. Plusieurs scénarios sont à l'étude. Les chiffres de l'épidémie donnent le vertige. Plus de 26 000 nouveaux cas ont été enregistrés hier avec 357 nouvelles admissions en réanimation ces dernières 24 heures. Et c'est une information Europe 1. Le nombre d'amendes pour non-respect du couvre-feu explose. Les verbalisations ont été multiplié par deux, illustrations dans ce journal. Les élections américaines approchent, on est à une semaine tout pile. Les deux candidats Joe Biden et Donald Trump étaient hier en Pennsylvanie. Et puis il y a du football ce soir, deuxième journée de Ligue des Champions. Marseille affronte Manchester City. Victoire impérative pour les Phocéens qui ont perdu la semaine dernière face aux Grecs de l'Olympiakos.
Juste après ce journal, Bruxelles devrait donner son accord à la fusion Peugeot-Fiat-Chrysler. Une bonne nouvelle dans une période troublée. L'éclairage écho de Daniel Fortin. Le regard international de Vincent Hervouet. Et puis, il faut accompagner les jeunes joueurs de foot dans leurs rêves et dans leurs déceptions. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Nous retrouverons enfin Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On n'a plus le temps d'attendre, alertent les médecins. L'épidémie de coronavirus progresse très rapidement. Plus de 2700 malades sont désormais hospitalisés en réanimation. 357 nouveaux cas ont été admis ces dernières 24 heures, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis avril. Le respect des gestes barrières reste primordial, le respect des restrictions aussi. Europe 1 vous révèle ce matin que le nombre d'amendes pour non-respect du couvre-feu explose. Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
Les contrôles et les verbalisations ont été multipliées par deux.
Oui, c'est une hausse spectaculaire, presque aussi rapide que la propagation du virus. D'après nos informations, le week-end dernier, les forces de l'ordre ont contrôlé plus de 21 000 personnes durant la nuit de samedi à dimanche. C'est deux fois plus que le week-end précédent. C'est vrai qu'entre-temps, nous sommes passés à 54 départements sous couvre-feu. Et lors de ces contrôles, près de 3 000 personnes ont été verbalisées, auxquelles il faut ajouter un millier de contrevenants qui ne portaient pas de masque samedi dans les secteurs où c'est pourtant obligatoire. A l'inverse, les restaurants et les commerces respectent les mesures. Sur les 19 500 contrôles menés la semaine dernière, seuls 430 établissements ont été épinglés selon nos informations et 11 ont été frappés d'une fermeture administrative.
Pour freiner l'épidémie, de nouvelles mesures seront prises dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui et demain deux conseils de défense.
Jean Castex a aussi prévu de rencontrer cet après-midi les partenaires sociaux et les responsables politiques. Plusieurs options sont envisagées. Le couvre-feu pourrait être avancé à 19h. On parle également d'un confinement le week-end ou uniquement pour les territoires où le virus circule le plus. Victor Delande, bonjour.
Bonjour.
Ce confinement sur mesure est défendu par deux médecins du CHU de Lille.
Oui, on n'a plus le temps d'attendre selon eux, mais on a encore la possibilité de choisir notre type de confinement. En mars-avril, l'impact sur l'économie a été bien trop important, d'où l'idée d'un confinement éco-compatible. Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, en dresse les contours.
On peut tout à fait imaginer de maintenir un certain nombre d'activités, l'accès aux écoles, aux collèges et aux lycées. Il faut maintenir les transports en commun, mais alors il faut probablement changer les horaires de travail. Comme ça, on pourra maintenir des entreprises ouvertes, celles qu'ils peuvent, à qui on demandera d'étendre au maximum le télétravail. Enfin, pour tout ce qui est commerce, l'idée, c'est de maintenir que les commerces de produits essentiels.
Ajoutez à cela l'annulation de toutes les réunions privées et publiques et une attestation de sortie du domicile systématique. Des restrictions qu'il faudrait territorialiser. Pas besoin, en effet, de confiner une région où le virus circule peu. Avec de telles mesures, ces médecins estiment qu'en 3 à 4 semaines, on pourrait reprendre le contrôle sur l'épidémie, c'est-à-dire revenir à 4000 ou 5000 contaminations par jour et sauver ainsi les fêtes de fin d'année.
Et on entend un reconfinement au moins partiel paraît de plus en plus probable. Les familles inquiètes espèrent que le confinement sera moins dur qu'au printemps dernier.
À l'image de l'Irlande où les écoles restent ouvertes et les parents télétravaillent, ce serait le scénario le moins contraignant pour cette famille située près de Toulouse.
Pour pouvoir télétravailler avec les enfants, c'est pas possible.
Angélique l'assure, si le pays se reconfine, il faut que l'école reste ouverte pour accueillir ces deux petits de 4 et 5 ans.
Je pense que c'est beaucoup mieux pour les enfants.
C'est mieux aussi que de les voir courir ou jouer dans la maison pendant une réunion à distance avec son patron.
Si je suis amenée à travailler à la maison, je pourrais être aussi amenée à aller chercher mes enfants à l'école. On sait qu'on pourra aussi se relayer, puisque pour l'instant, c'est surtout le papa qui va les chercher.
Le papa, c'est Romain, serveur dans un restaurant toulousain. Depuis le couvre-feu, fin de service à 21h, pour le moment. Pour son salaire, pas de panique, il sera au chômage partiel. Mais le confinement de l'automne ne peut pas ressembler à celui du printemps.
On est déjà passé par là. Non, ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Il faisait beau, tout ça. Là, ça risque d'être quelque chose d'un peu plus triste, d'un peu plus terne. Qu'on se serre la ceinture. De toute façon, on est bien obligé. Il faut certainement passer par là. C'est pas évident. On voit pas l'avenir du bon côté, quoi.
Se reconfiner signifierait pour eux un nouveau sacrifice pour espérer fêter Noël en famille.
Un reportage de Jean-Gabriel Bourgeois.
Il y a un côté très angoissant quand même dans les informations ce matin. L'épidémie hors de contrôle, ces nouvelles restrictions annoncées. Il faudrait garder l'objectif en vue, en ligne de mire. Sauver Noël, c'est le maître mot hein, de plusieurs pays européens qui ont adopté des mesures strictes pour tenter de contenir cette deuxième vague qui touche, il faut le dire, tout le continent.
Le confinement partiel instauré en Slovénie va être durci dès aujourd'hui et le contrôle aux frontières renforcé. En Belgique, les vacances de la Toussaint ont été prolongées. Restrictions aussi en Italie où les bars et les restaurants ferment désormais à 18h. Une décision pas forcément bien accueillie. De violents incidents ont éclaté hier soir à Milan et Turin, où la police anti-émeute a été déployée. Le Premier ministre italien doit présenter aujourd'hui des mesures de soutien au secteur d'activité et aux professions les plus touchées par les mesures de restriction.
La crise sanitaire qui plombe aussi, vous le savez, l'économie en France. L'Assemblée nationale a voté cette nuit le plan de relance pour permettre un rebond face à la récession.
L'adoption définitive du texte est espérée au plus tard le 18 décembre. Sur les 100 milliards d'euros annoncés, le plan de relance doit permettre de débloquer 22 milliards de crédits dès l'année prochaine autour de trois piliers, l'écologie, la compétitivité et la cohésion des territoires.
Europe 1, il est 7h07. La menace terroriste est plus élevée que jamais en France. Les appels à la haine se multiplient après le discours d'Emmanuel Macron en faveur de la liberté d'expression.
Et le chef de l'État avait également réaffirmé que la France ne renoncerait pas aux caricatures après l'assassinat du professeur d'histoire géo Samuel Paty. Des propos fustigés par le président turc Erdogan qui invitait il y a deux jours Emmanuel Macron a allé se faire soigner. Hier, le président turc a appelé au boycott des produits français. Jean-Sébastien Soildani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Istanbul pour Europe 1, dans le quartier d'origine d'Erdogan. Tout le monde n'est pas d'accord.
Non, à commencer par les commerçants. Il n'y a qu'à regarder les rayons des épiceries ce matin. Les yaourts, les fromages de marque française sont bien là. Ceux d'une grande coopérative laitière, notamment très populaire ici. Un épicier reconnaît que c'est dur de s'en passer. Alors sur ces étalages, Ismail applique la loi du marché.
La vache qui rit, elle reste en rayon. Si les clients veulent l'acheter, ils peuvent. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis commerçant, je fais mon métier. Je n'aime pas le Coca-Cola, mais je le mets dans mon rayon. C'est le client qui décide.
Shimal commence ses courses au petit matin. Elle est prête à se priver de certains produits, mais sans trop savoir lesquels.
De manière générale, on a l'impression qu'il y a de l'hostilité envers les Turcs. Notre président essaye d'afficher son désaccord. C'est un petit pas, mais je soutiens la démarche. Bien sûr que je vais le faire. Il y a des marques bien particulières. Une liste a été dressée et je vais me renseigner.
Et puis il y a ceux pour qui la décision de boycotter est plus difficile, ce sont les pharmaciens. L'un d'eux est resté flou sur sa volonté de retirer les médicaments issus de labos français.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
J-7 avant l'élection présidentielle américaine. C'est donc la dernière ligne droite pour Joe Biden et Donald Trump.
Les deux candidats en campagne étaient tous les deux hier en Pennsylvanie, un état décisif pour l'élection. Joe Biden pour une visite surprise. Donald Trump, lui, a tenu pas moins de 3 meetings dans la journée et il compte maintenir ce rythme effréné jusqu'à mardi prochain. Notre correspondant Xavier Yvon a assisté au premier de ces rassemblements destinés à mobiliser la base électorale du président.
Donald Trump monte sur scène, ses fans à casquette rouge se serrent les uns contre les autres, heureux de se compter si nombreux, comme Myriam, une franco-américaine coiffée d'un chapeau de cow-boy.
Je suis venue en fait pour voir si vraiment il y avait du monde, etc. Et oui, je pense qu'il a un soutien énorme. Et je pense que les sondages sont faux.
Les sondages qui le donnent perdant, Donald Trump les balaye aussi. Très en forme, il promet à la foule de refaire le coup de 2016 et il rejoue la soirée électorale victorieuse d'il y a 4 ans. Probablement le plus grand moment de télévision de l'histoire. Exactement ce que Dana voulait entendre. Avec tous ces gens qui le détestent, c'est décourageant, dit-elle. Et là, ça vous donne un shoot d'énergie, ça recharge vos batteries. Cette retraitée venue du New Jersey voisin ne sait même plus combien de fois elle a vu le show Donald Trump. Je ne peux pas imaginer ma vie sans ces meetings, dit-elle. Je ne peux pas me dire que c'est le dernier. Dernier tour de piste ou dernier tour de force, Don et John sortent rassurés. Avant le meeting, on espérait qu'il gagne. Maintenant, on sait qu'il va gagner. Alors que la foule est encore en train de se disperser, l'avion présidentiel passe juste au-dessus. Donald Trump est déjà reparti. Prochain meeting dans une heure. Allentown, Xavier Yvon, Europe 1.
Et notez que le Sénat a confirmé cette nuit la juge Barrett à la Cour suprême des États-Unis. Cette fervente catholique de 48 ans, mère de 7 enfants et opposée à l'avortement, a prêté serment dans la foulée à la Maison-Blanche. Donald Trump a loué ses qualifications impeccables et sa générosité dans la foi.
Et puis en football, deuxième journée de Ligue des Champions ce soir.
L'OM reçoit Manchester City à 21h. Le club phocéen espère se rattraper après une défaite contre l'Olympiakos la semaine dernière. Mais ça s'annonce compliqué, Stéphane Frangy.
Peur sur la ville, les citizens sont précédés par leur réputation et les supporters comme Samir s'attendent au pire.
Une grosse peur même, ça va être dur. Pour City, ça va être compliqué. L'entraîneur, Pep Guardiola, Riyad Mahrez, Foden, Agüero, c'est vraiment de grands joueurs et ils ont une équipe pour même pour gagner la Ligue des Champions.
Mais c'est également ce qui fait l'ADN d'un supporter comme Michel, croire en la victoire contre toute attente.
Bien, avec une victoire à la clé.
Pour qui ?
Pour l'OM. Non, après c'est paradoxal, on va voir, on est capable du meilleur et du pire. City n'est pas encore dans une forme étincelante, faut espérer une victoire.
Hein. Ouais, plus terre à terre, le coach André Villas-Boas a bien tenté d'analyser les vidéos des matchs de Manchester City sans y trouver vraiment l'inspiration.
C'est une équipe exceptionnelle, avec pas beaucoup de fautes, pas beaucoup de choses à exploiter. Ils ont beaucoup d'expérience dans la Ligue des Champions, c'est une des meilleures équipes du monde et ça va être dur, on va voir.
Soirée cauchemar en perspective pour l'arrière-garde marseillaise. Le défenseur Douillet de Salet-Atsar l'a annoncé, il faudra être concentré et agressif. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et soirée foot dès 20h ce soir autour de Lionel Rosso sur Europe 1. La Ligue des Champions qui se poursuivra demain. Le PSG ira à Istanbul. Rennes sera opposé à Séville.
Merci beaucoup Émilie Dez. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 7h40 ce matin, je reçois Laurent Mignon. C'est le président du directoire du réseau Banque Populaire Caisse d'Épargne. Nous l'avions déjà invité au cœur du confinement. Et déjà, il nous disait que le risque n'était pas tant l'arrêt de l'économie, mais de manquer le redémarrage, de subir une deuxième vague. Et nous y voilà, l'éternel arbitrage entre la santé et l'économie. C'est aussi lui qui se charge des questions climat à la Fédération bancaire française. Les banques à nouveau épinglées par l'ONG Oxfam pour leur financement d'activités polluantes. Nous serions bien loin de l'accord de Paris. Laurent Mignon, réponse des banques ce matin, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40 tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco, Daniel Fortin, bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
L'éclairage éco avec Daniel Fortin cette semaine, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est presque officiel, Bruxelles devrait entériner la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, le nouveau numéro 4 mondial de l'automobile est presque né.
Oui, ce n'est qu'une question de jours, mais les informations qui viennent de la Commission européenne ne laissent aucun doute. Ce sera donc un feu vert, franc et massif. Ce qui bloquait encore, c'était un abus éventuel de position dominante sur le marché des véhicules utilitaires. Il faut savoir qu'ensemble, les deux groupes détiennent 34% du marché des camionnettes et fourgonnettes en Europe. Apparemment, les quelques concessions qu'ils ont acceptées pour maintenir la concurrence ont suffi. Tout est donc prêt pour un mariage à 50-50 qui doit avoir lieu avant la fin du premier trimestre prochain.
Au printemps 2021, si je vous suis bien.
Exactement.
Et c'est plutôt un heureux événement dans cette période troublée.
Oui, c'est vrai. À l'heure où la pandémie menace de bloquer une fois encore toute l'activité économique, il peut paraître surréaliste de voir que le big business, comme on dit, continue à avancer. Vous l'avez dit, on parle là de la constitution du quatrième groupe automobile du monde. Ça n'est pas rien. Il comptera 16 marques au total. Fiat, Peugeot, Chrysler, bien bien sûr, mais aussi Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Maserati. Ça fait du monde et surtout ça montre que du basique au luxe, il sera présent sur toute la gamme automobile. Dernier chiffre, à lui seul, le nouveau groupe qui sera baptisé Stellantis vendra 8,7 millions de véhicules dans le monde pour un chiffre d'affaires de 184 milliards d'euros.
Futur quatrième constructeur mondial, vous le disiez. C'est en tout cas le mariage qu'il ne fallait pas louper pour rester dans la course auto.
Oui, vous avez raison, tout aurait pu capoter à cause de l'épidémie. Ça ne sera pas le cas et c'est tant mieux car personne n'est capable de dire dans quel état le secteur automobile sortira de cette crise mondiale. On savait déjà que les regroupements étaient nécessaires pour faire face aux gigantesques investissements qu'il va falloir consacrer au développement des véhicules propres dans les années à venir. On peut dire que PSA a augmenté au bon moment sa taille critique et pour la France, avoir un constructeur national à ce niveau de compétition, eh bien c'est une très bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, on prend en ce moment Daniel Fortin et surtout je souligne, parce que vous avez raison de le rappeler, on parle tout le temps de la voiture de monsieur et madame tout le monde, de la voiture du quotidien, l'ensemble des deux groupes, c'est 34%, un tiers du marché des camionnettes et fourgonnettes. Le véhicule professionnel, il faut le souligner. Merci Daniel Fortin, il est 7h16. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Daniel, bonjour à monsieur et madame tout le monde.
Et ils sont à l'écoute d'Europe 1, vous le savez, monsieur et madame tout le monde. On les salue, on reparle du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ce matin, Vincent. Au Karabakh, Vincent, le cessez-le-feu n'a pas tenu deux heures.
Oui, depuis début octobre, par trois fois, les ministres arméniens et azerbaïdjanais sont assis à la même table. Et sous la pression de leur hôte, ils ont convenu d'un cessez-le-feu. Ils y sont engagés le 10 octobre à Moscou, le 17 à Paris, le 25 à Washington. Toutes les semaines, donc, ils se retrouvent au bout du monde. Ça rappelle les négociations israélo-palestiniennes du temps d'Arafat, qui ont nomadisé pendant 10 ans et n'ont abouti nulle part. Dans le Caucase, le temps que les ministres rentrent chez eux, la trêve vole en éclats. Chaque camp accuse l'autre, tous les deux ont raison. Et il faut tout le toupet d'un Donald Trump en fin de campagne pour claironner que l'accord est conclu et que ça va être facile.
Sur le terrain, la bataille est meurtrière, les Arméniens reculent.
Selon Vladimir Poutine, déjà 5000 morts. Les défenses arméniennes ont été taillées en pièces par les drones, les petits drones kamikazes israéliens qui foncent sur leurs cibles et les drones de combat turcs qui avaient déjà prouvé leur efficacité en Libye. Ils ont ouvert la voie à l'infanterie qui a repris la bande frontalière avec l'Iran, obligeant les Arméniens à se replier. Mais c'est à l'ouest que la vraie bataille approche, dans l'étroite bande montagneuse qui sépare la République d'Arménie des Arméniens du Karabakh. Si ce corridor de la Chine tombe, eh bien le Karabakh sera englouti.
La cause paraît désespérée.
Les indépendantistes gardent deux alliés. D'abord le général Hiver. Les fantassins seront à la peine dans ce col enneigé. Et puis le parrain russe. Le président de la République autoproclamée a rappelé Vladimir Poutine au secours hier. Il a contourné le premier ministre arménien, Pachinian, que déteste le Kremlin. Poutine n'est pas pressé. Il laisse s'affaiblir arménien comme azerbaïdjanais avant d'intervenir. Ça ne veut pas dire qu'il reste passif. Les Russes ont bombardé hier, en Syrie, les islamistes du groupe Felak al-Sham. Ils en auraient tué une centaine. Ce sont les protégés des Turcs qui les envoient à combattre au Karabakh. Erdogan rêve d'un nouvel empire ottoman et il est normal qu'il trouve Poutine, l'héritier de l'empire russe, sur sa route. Les petites nations orthodoxes, arméniens aujourd'hui, chypriotes demain, gardent l'espoir encore d'échapper à la conquête.
Merci Vincent Hervouet. 7h19 sur Europe 1. À suivre, refusé dans le groupe professionnel de Manchester City, un jeune homme de 17 ans s'est donné la mort. L'appel de Virginie Fulpin pour une meilleure protection des aspirants footballeurs. L'édito sport dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'Olympique de Marseille reçoit Manchester City. Ce soir, c'est de la Ligue des Champions. Le club anglais, lui, est en deuil. Un jeune joueur de 17 ans, un ancien de son centre de formation, vient de se suicider. Il n'a pas supporté de ne pas avoir intégré le groupe professionnel du club. Pour vous, Virginie, il y a urgence à mieux accompagner les jeunes aspirants footballeurs.
Bah oui, il faut les protéger, ces gamins. Et la mort de Jeremy Winston est la preuve tragique qu'on n'en fait pas assez pour les accompagner. Il est arrivé au centre de formation de Manchester City à 13 ans, mais au bout de 4 ans, il n'a donc pas été retenu pour intégrer le groupe professionnel. Et il a fait une dépression comme beaucoup d'aspirants footballeurs. Ces enfants, parce qu'à leur arrivée au centre de formation, ce sont bien des enfants, ils sacrifient beaucoup pour leur rêve de football. Le club qui les accueille n'est pas forcément à côté de chez eux, donc ils quittent leur famille, leurs amis, c'est pas facile à cet âge-là. Ils vont évidemment à l'école en parlant de leur formation, mais ça n'est pas leur priorité, on ne peut pas leur reprocher. Eux, ce qu'ils visent, ce qui fait briller leurs yeux d'enfant, c'est le football. En plus, ils sont plongés dans un environnement extrêmement concurrentiel. Ils doivent se battre pour réussir sur le terrain et être meilleurs que les autres. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il y a une part de leur innocence qui disparaît alors qu'ils sont encore tout jeunes. Comme si, d'un seul coup, trop vite, ils intégraient un monde d'adultes.
On sait que dans les centres de formation, il y a peu d'élus qui intègrent le foot professionnel.
Ah oui, bien sûr, ça leur est répété tout le temps. On ne cherche pas à les leurrer dans les centres de formation. Mais encore une fois, ils sont petits, donc chacun pense qu'il va faire partie de ces élus. Vous ne pouvez pas demander à des gosses qui ont des rêves plein la tête d'avoir le recul pour se dire qu'ils vont peut-être échouer et que ce ne sera pas grave. Que les clubs pensent à ne pas passer à côté de la perle rare, c'est normal. Mais ils doivent respecter les autres aussi et les accompagner psychologiquement de manière plus efficace. Des jeunes qui ne passent pas le cap du centre de formation, il y en a des milliers. Ceux-là doivent être suivis au moment de leur sortie. Il faut les aider à se reconstruire. Certains peuvent trouver un club moins huppé et continuer leur rêve. Il faut les aider à en prendre conscience. Et les autres, ceux qui ne voient plus d'avenir, qui ne se voient plus d'avenir parce qu'ils ont passé des années à se focaliser uniquement sur le foot, ceux-là et leurs parents doivent être accompagnés plus sérieusement. Devoir abandonner ses rêves à 17 ans, c'est d'une extrême violence et ça mérite un vrai suivi. On ne peut pas les laisser tomber comme ça.
L'appel de Virginie Fulpin ce matin. L'édito sport. Merci Virginie. Il est 7h24 sur Europe 1. Et comme tous les matins, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oh d'ailleurs, je ne le dis jamais, mais je devrais également dire bonjour à toutes, autant pour moi. Autant pour moi. Voilà une expression dont l'orthographe divise autant les Français que le séparatisme entre ceux qui disent chocolatine et ceux qui disent pain au chocolat.
Oui, vrai débat d'ailleurs. Est-ce qu'on écrit autant T-E-M-P-S ou autant A-U-T-A-N-T ?
Eh bien, vous connaissez mon talent pour ménager la chèvre et le chou. Cela dépend de ce que l'on veut dire. À l'origine, autant, T-E-M-P-S, est une expression militaire. Beaucoup de manœuvres doivent être synchronisées. Des chants, des marches doivent partir tous au même temps. Quand le gradé crie autant, T-E-M-P-S, cela signifie qu'on reprend le mouvement depuis le début et si possible, autant. En italien, on dit al tempo. Et puis, il y a autant pour moi, A-U-T-A-N-T. On trouve sa trace en 1640 avec l'expression « autant pour le brodeur » qui signifiait qu'on se moquait de soi-même après une erreur. La formule disparaît ensuite pour revenir au début du XXe siècle pour dire « je suis comme vous, je fais autant d'erreurs que vous », ce qui s'éloigne de l'expression militaire d'origine. Il y a donc deux « autant ». Celui où l'on dit « je fais autant d'impairs que vous » et « autant pour moi », avec T-E-M-P-S, comprenez, revenons au moment où je me suis trompé. Quant à Lamartine, il préfère « autant suspend ton vol » avec un accent circonflexe sur le « haut ». Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Tiens, ben voilà une expression que l'on fera demain, si vous voulez bien.
Oui, je le veux, volontiers. Ce soir, on vous retrouve cet après-midi à 16h, historiquement vôtre, avec Mathieu Noël. Quel est le programme du jour ?
Eh bien Mathieu, on réunit trois docteurs maboules qu'il ne fallait surtout pas appeler en cas d'urgence. Le docteur Petiot, le docteur anglais empoisonneur William Palmer et O'Neill Ron Morris, une fausse chirurgienne transsexuelle qui a pris l'expression « avoir un cul en béton au premier degré » aux grandes dames de ses patients. Bref, on vous raconte l'histoire sans ordonnance avec Mathieu Noël tout à l'heure, 16h-18h sur Europe 1.
À tout à l'heure 16h. 7h26 sur Europe 1, restez avec nous. La météo, Laurent Cabrol dans quelques secondes avant le journal de Sophie Etchaine. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Autant pour moi, c'est ce qui... Il a oublié une chose, hein, Stéphane Bern.
Le temps.
Autant pour moi, c'est à moi de dire le temps, voilà.
C'est à vous, Laurent. Donc, le temps aujourd'hui.
Pour vous annoncer la pluie qui arrive, qui est déjà arrivée sur la Bretagne et sur le Cotentin et sur la Vendée, même les pays de la Loire sont en train d'être conquis par cette perturbation bien solide qui va gagner tout le pays avant ce soir. Cet après-midi, les plus tardifs à la recevoir seront la Lorraine, la Bourgogne, le Rhône, l'Allier, l'Ardèche. Sur Lyon, ce sera probablement un petit peu avant 18h, et de plus en plus un voile de plus en plus épais sur les Alpes, la Franche-Comté, et dans ces contrées, eh bien, en attendant la pluie, vous aurez un ciel souvent plombé. Quand même un brin de soleil, je l'ai trouvé, tiens, sur la Côte d'Azur, mais c'est une journée vraiment humide et maussade. Les températures, 12 à Épinal, 13 à Lille, 14 à Paris et Poitiers, Niort, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Toulouse, 16 et 19 degrés à Nice.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Etchaine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
On est beaucoup plus serein,
Les choses sont bien gérées, il n'y aura pas de rupture de blé, il y aura suffisamment de blé pour pouvoir assurer l'ensemble de la production.
La grande distribution se dit confiante avant l'annonce d'un possible reconfinement. Europe 1 vous révèle ce matin que cette fois, il n'y aura pas de pénurie de pâtes dans les rayons. Bientôt, une nouvelle arme pour lutter contre le coronavirus. Les tests antigéniques arrivent en pharmacie, résultat en 30 minutes. Dans ce journal, la mise en garde du directeur général de la police à ses troupes, la menace terroriste est au plus haut. Et puis les banques françaises accusées de faire monter le mercure, l'ONG Oxfam leur reproche de ne pas en faire assez contre le changement climatique.
Et justement, réponse de la Fédération bancaire française. Laurent Mignon y est en charge des questions climat, le patron du réseau Banque Populaire Caisse d'Épargne, le tête-à-tête Europe Matin après ce journal. Le soutien de nos voisins européens dans la crise franco-turque, c'est l'édito politique de Catherine Ney. Juste avant, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, l'essayiste Hakim El Karaoui, ancien conseiller à Matignon, spécialiste des questions liées à l'islam de France. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des rayons de pâtes, riz et conserves clairsemés, voire vidés. On se souvient tous de ces images qui avaient suivi l'annonce du confinement en mars dernier lors de la première vague de l'épidémie. Nous sommes actuellement en pleine deuxième vague et l'hypothèse d'un reconfinement refait surface. Mais déjà, la grande distribution se prépare.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Il n'en fallait pas plus pour que les industriels de l'agroalimentaire, ils ont déjà prévu les stocks ?
Effectivement, et un chiffre parle de lui-même, le fabricant de pâtes français Panzani a augmenté ses ventes à la grande distribution de 30% ce mois-ci. Les supermarchés anticipent une éventuelle ruée sur les rayons, selon le président de Panzani, Xavier Riecher. Il était l'invité hier de La France Bouge sur Europe 1.
La distribution avait des stocks. Nous-mêmes, on a augmenté nos stocks, ce qui fait que cette année, s'il y a une deuxième vague, on est beaucoup plus serein. Les choses sont bien gérées, il n'y aura pas de rupture de blé, il y aura suffisamment de blé pour pouvoir assurer l'ensemble de la production.
Car on est passé à deux doigts d'une rupture au printemps dernier. Les ventes de pâtes ont augmenté de 100% alors que la récolte de blé était terminée et la production écoulée. Alors à ce moment-là, l'État a débloqué des réserves en urgence destinées normalement à l'exportation. Cette fois, producteurs et distributeurs ont anticipé pour les pâtes, mais aussi la farine, le riz, ou encore la soupe.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense à l'Élysée ce matin pour discuter de l'éventualité d'un reconfinement total ou relocalisé. Tous les indicateurs sont au rouge. Plus de 2700 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation.
Pour tenter d'endiguer l'épidémie et pour désengorger les laboratoires d'analyse, les premiers tests antigéniques arrivent bientôt en pharmacie.
Plus rapides, mais moins fiables que les tests PCR, ils ne sont pas prévus pour les plus âgés, considérés comme trop à risque. Anne-Lise Bodino est pharmacienne à Paris. Elle devrait en recevoir la semaine prochaine, mais il reste encore beaucoup d'interrogations.
On n'a eu quasiment aucune information. Du jour au lendemain, on nous a dit « Vous allez avoir des tests en fin de semaine prochaine. Vous allez vous former avec une petite vidéo sur Internet. » Donc la personne se présente, le test est fait sur place. C'est l'écouvillon dans le nez, tout à fait classique comme en laboratoire. Pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, uniquement pour les personnes de moins de 65 ans. Ça prend 2 minutes de faire le test et ça prend une demi-heure d'avoir les résultats.
Ce test, vous pourrez le faire où ? Parce qu'a priori, c'est vous qui le feriez.
C'est une grande question parce que vous connaissez les pharmacies à Paris, on a plutôt des espaces qui sont petits. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir les faire éventuellement dans l'espace de vente, même si ça paraît incroyable. L'espace de vente où on peut éventuellement circuler, c'est 20 petits mètres carrés. Donc il faut imaginer qu'il faut installer la personne sur la chaise, préparer le matériel. Nous, il faut qu'on ait charlotte, masque, gants, masque sur les yeux également, blouse, pour pouvoir faire le test. Donc c'est quand même une certaine... C'est tout un protocole à mettre en place.
Anne-Lise Bodino, pharmacienne à Paris, interrogée par Jean-Jacques Herry.
Pas l'air d'avoir très envie,
non,
cette pharmacienne. En l'occurrence, 7h34 sur Europe 1. 3 attaques en moins de 3 semaines, dont la décapitation, bien sûr, de Samuel Paty dans les Yvelines. Dernière attaque en date, les services antiterroristes sont sur les dents.
Les appels à la haine se multiplient après les propos d'Emmanuel Macron en faveur de la liberté d'expression et de la republication des caricatures de Mahomet. Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Au ministère de l'Intérieur, on estime que rarement le risque n'a été aussi élevé dans le pays.
Oui, la menace est à un niveau extrême, c'est ce qu'a dit le directeur de la DGSI, le renseignement intérieur, au préfet réuni en visioconférence hier matin avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 2 attentats ont lieu en 2 semaines et plus récemment, une agence proche d'Al-Qaïda a appelé à cibler la France. Des menaces qui visent Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, mais aussi les imams modérés qui ont condamné publiquement les attaques terroristes. Les appels à la haine sur Internet se multiplient aussi. Par exemple, une avocate partie civile civile au procès des attentats de 2015 a été menacé de mort. L'homme responsable a été condamné à 3 ans de prison hier. Le ministère de l'Intérieur et le directeur de la police nationale appellent donc les forces de l'ordre à une vigilance accrue, mission prioritaire, aussi car les célébrations de la Toussaint approchent et que les symboles de la chrétienté pourraient être des cibles.
Cladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
C'est dans ce contexte que le sort de la mosquée de Pantin, en Seine-Saint-Denis, sera fixé ce matin.
Gérald Darmanin avait réclamé sa fermeture après l'assassinat de Samuel Paty, mais les responsables du lieu de culte ont déposé un recours. Angela Merkel, Giuseppe Conte, Mark Rutte, les dirigeants européens affichent leur soutien à Emmanuel Macron alors que le climat se tend entre Paris et Ankara. Le président turc Erdogan a appelé au boycott de produits français. Reportage de notre envoyé spécial à Istanbul dans le journal de 8h. La juge conservatrice Amy Coney Barrett confirmée à la Cour suprême des États-Unis. Une victoire de taille pour Donald Trump à une semaine pile de l'élection présidentielle. Il salue un jour historique pour l'Amérique.
À 2 jours du Climate Finance Day, la journée de la finance verte, le climat se tend entre les défenseurs de l'environnement et les banques.
Ce matin, l'ONG Oxfam publie un rapport selon lequel les banques françaises sont loin d'être alignées avec l'accord de Paris 4 ans après sa signature. Car selon ce nouveau rapport, Virginie Salmen, les financements actuels placent le monde sur la trajectoire d'une hausse des températures de 4 degrés.
Oui, l'argent que nous déposons sur nos comptes courants, nos assurances-vie, les banques l'utilisent pour financer des industries beaucoup trop polluantes, selon le rapport d'Oxfam, dont Alexandre Poidatz est l'auteur.
Sans savoir, l'argent que nous déposons en banque va être utilisé par la banque pour financer des projets tels que Total ou tels que des puits de pétrole ou du gaz de schiste aux États-Unis, etc. Et ceci, de fait, va générer des émissions de gaz à effet de serre. Et l'empreinte carbone de notre argent en banque est en réalité supérieure à l'empreinte carbone de notre propre consommation, c'est-à-dire de notre alimentation ou de nos transports.
Pourtant, les grandes banques françaises ont pris des engagements forts ces derniers mois. Arrêter totalement de financer l'industrie du charbon, responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie, c'est bien, mais ce n'est pas du tout à la hauteur du réchauffement climatique en cours, selon Oxfam, qui décerne quand même un satisfait site au Crédit Mutuel, dont le patron vient d'annoncer qu'il s'engageait à réduire de 15% en 2 ans, donc à très court terme, l'empreinte carbone totale de sa banque.
Les explications de Virginie Salmen. Et puis le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome ce soir. L'Olympique de Marseille reçoit Manchester City, l'un des grands favoris de la compétition. Coup d'envoi à 21h, soirée spéciale autour de Lionel Rousseau à partir de 20h sur Europe 1.
Merci beaucoup Sophie Echen, il est 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'invité politique d'Europe Matin, Hakim El-Khraoui. Il est aussi l'auteur du rapport La fabrique de l'islamisme pour l'Institut Montaigne, la lutte contre l'islamisme radical. Politique et son corollaire, l'organisation d'un islam de France. C'est simple, c'est l'un des meilleurs connaisseurs de la question. Il connaît très bien aussi la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, la surenchère dans le bras de fer franco-turc, la réponse européenne. Hakim El-Khraoui à 8h15 ce matin. Mais tout de suite, Sophie Echen en parlait dans le journal à l'instant. Les banques françaises à nouveau ciblées par l'ONG Oxfam, investissement dans l'économie verte et surtout leur financement d'entreprises polluantes. Réponse ce matin, Laurent Mignon, président du réseau BPCE, président de la commission climat de la Fédération bancaire française, le tête-à-tête Europe Matin. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Il est 7h40 sur Europe 1. Selon l'ONG Oxfam, si les banques ne changent pas de trajectoire de politique de financement d'entreprise, c'est un scénario à plus 4 degrés en 2100 qui nous attend, loin de l'objectif de l'accord de Paris. Mon invité est patron du groupe BPCE, mais nous le recevons en qualité de président de la commission climat de la Fédération bancaire française. La réponse des banques ce matin avec Laurent Mignon.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Laurent Mignon.
Bonjour Monsieur Béliard.
Ce rapport annuel de l'ONG Oxfam, Oxfam l'an dernier, ciblait exclusivement les investissements dans les énergies fossiles. Les banques se sont engagées ces derniers mois sur la sortie du charbon. Là, cette fois, je synthétise dans ce rapport, ce sont toutes les activités bancaires, tous les investissements qui sont analysés. Ce que dit Oxfam, pour faire simple, c'est que vous faites des efforts, mais pas assez. Et que c'est un scénario à plus 4 degrés en 2100 qui nous attend, loin de l'accord de Paris, à plus 2,5 degrés.
Oui, mais Oxfam est un peu dans son rôle, hein, qui est toujours de pousser, d'essayer de probablement d'exagérer les situations. Mais surtout, moi je pense qu'elle elle se trompe de deux choses. Elle se trompe de méthode et elle se trompe de cible. Elle se trompe de méthode parce que la méthode qu'elle utilise est biaisée. D'abord, ce n'est pas la même que l'année dernière, hein, vous avez vu, vous l'avez souligné vous-même. On change de thermomètre d'année en année, donc c'est difficile de suivre. Et puis, la méthode qu'ils utilisent, elle est biaisée. Elle est biaisée parce que, d'abord, elle est fondée sur une analyse globale, sans rentrer dans la granularité des portefeuilles, par exemple. Et quand elle dit, par exemple, vous
c'est
financez...
C'est quoi la granularité?
Elle vous dit, vous financez les entreprises de l'énergie. Et bien, dedans, il y a des entreprises de l'énergie qui font des efforts, ils s'y transforment, d'autres non. Là, elles les prennent de façon globale et elles ne peuvent pas faire autrement parce qu'elles n'ont pas le détail des portefeuilles. Mais ça biaise l'analyse. Mais la deuxième chose, et la plus importante, c'est que c'est une étude statique, essentiellement fondée sur des chiffres de 2017. Donc, statique, ça veut dire quoi? C'est que quand elle dit vous serez sur une trajectoire à 4 degrés à 2100, c'est-à-dire qu'elle considère que rien ne va bouger. En 2017, 2100, même situation.
Et vous resteriez dans les mêmes proportions.
Exactement. Et donc, fondamentalement, l'étude d'Oxfam, qu'est-ce qu'elle dit? L'économie mondiale aujourd'hui est carbonée. Mais on le sait.
Oui, vous disiez dans le journal L'Opinion hier, la finance ne peut pas être totalement verte dans un monde qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas votre rôle, à vous,
mais
les
si.
Banques.
Mais
Bruno
bien
Le
sûr.
Maire le rappelait, il vous tensait même sur ce sujet-là.
Oui, non, mais bien sûr que notre rôle est d'être un des acteurs importants pour faire cette transition. Mais c'est une transition, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut pousser à ça. Alors on prend des mesures d'exclusion pour les sources d'énergie les plus polluantes, et on avait pris des engagements extrêmement forts sur le charbon, l'ensemble des banques françaises.
Et c'est salué d'ailleurs dans le rapport d'Oxfam.
Voilà,
hein,
et elles ont été tenues. Nous avons publié, nous publions là, à l'occasion du Climate Finance Day, le taux d'exposition des portefeuilles de financement des banques françaises sur le charbon. C'est 0,18% de nos encours, 2,3 milliards. En même temps, nous finançons les nouvelles énergies, les énergies propres, les renouvelables. C'est près de 41 milliards de crédits qui ont été faits par les banques françaises dans les énergies renouvelables, en hausse de plus de 50%, 57% en 3 ans. Donc
aujourd'hui, je vais être très, très simple. Imaginons que j'ai de grandes envies de développement durable et un projet industriel faramineux. Vous le financez, j'ai
oui,
pas de mal à le financer aujourd'hui.
Il n'y a pas de projet dans les économies renouvelables qui ne trouve pas de financement aujourd'hui. Ils trouvent des financements, sauf un
parce
projet
que...
qui serait farfelu. Mais tous les projets dans ces industries, aujourd'hui, il n'y a pas un manque de financement. Il y a plutôt trouver les bons projets, les mettre en œuvre, etc.
Parce que pour Oxfam, Laurent Mignon, pour parler concrètement, il faut peser, mais d'ailleurs vous parlez des entreprises et de l'économie réelle, il faut peser sur, je cite, Total et Vallourec pour le pétrole, pour le gaz de schiste, il faut là aussi couper de la même manière que pour le charbon.
Oui, mais bien entendu, mais il faut le faire dans une transition. On ne va pas passer d'un jour à l'autre à une économie carbonée, à une économie décarbonée. Donc c'est une trajectoire. Pour ça, il faut faire plusieurs choses. Il faut évaluer la situation, donc avoir des modes d'évaluation de où en sont les portefeuilles des uns et des autres, et surtout où en est le taux de consommation de carbone de nos clients. Ce qu'on fait, toutes les banques sont en train de travailler là-dessus. Chez BPCE, on a mis en place le Green Weighting Factor. D'autres banques sont en train de travailler sur la méthode PATCA. Enfin, il y a plusieurs typologies de méthodes qui permettent d'avoir quelque chose qui objective la situation. Et on va essayer de faire converger ça. Et puis après, il faut faire une trajectoire. Et ça passe par un dialogue avec nos clients, pas en stigmatisant, mais en ayant un dialogue avec eux et en leur disant, écoutez, voilà, si vous avez un projet, vous faites évoluer les choses, nous allons vous accompagner et vous financer. Vous savez, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est comme si maintenant, demain, on disait à nos clients, en particulier à vos auditeurs, ben demain, votre voiture à l'essence, on ne va plus la financer. On ne va plus la financer parce que ce n'est pas bien, c'est polluant. Maintenant, c'est une évolution. Et cette évolution, les banques ont un rôle important à faire, mais elles ne sont pas seules. L'évolution de l'économie vers une économie décarbonée, c'est l'affaire de beaucoup, de tous. Des pouvoirs publics, des entreprises,
des banques.
La finance. Et les banques s'engagent. Elles se sont engagées. Elles ont mis même en place un observatoire qui va permettre de rendre transparent tout ce qui est fait, tous les engagements et la façon dont nous les tenons.
Et je voudrais voir cet observatoire. On observera cet observatoire. Je vais vous demander un exercice un peu complexe. Je vais vous demander de changer de casquette virtuellement. Ouais. Je quitte le président de la commission climat de la Fédération bancaire française et je retrouve le président du directoire de la BPCE, le réseau Banque Populaire Caisse d'Épargne. Je dis je retrouve parce que nous nous sommes parlé, Laurent Mignon, j'ai réécouté notre interview le 8 avril dernier sur Europe 1. Nous parlions du prêt garanti par l'État, de l'activité à l'arrêt. Vous me disiez Le problème n'est pas tant le confinement que le déconfinement. Je reprends vos propos. Le pire serait une deuxième vague si le déconfinement se passe mal. C'est précisément ce qui est en train de se passer, non ?
Malheureusement, c'est ce qu'il semble se passer. Alors, j'espère que les mesures qui vont être prises sont des mesures qui préserveront le fonctionnement économique, qui seront moins général que ce qu'on a connu lors de la première phase de confinement, qui s'est traduit par un arrêt de l'économie, en tout cas pendant quelques semaines. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai constaté une extrême mobilisation de tous pendant cette période, et notamment des banques, au soutien de leurs clients. Des pouvoirs publics qui ont pris et ont mis en œuvre, et je suis certain que si on arrivait vers un confinement, les pouvoirs publics continueraient à s'engager comme ils l'ont fait pour soutenir les entreprises,
le
et les banques. Les banques l'ont fait massivement, de façon très efficace dans cette période. Je peux vous dire que l'ensemble des salariés de notre réseau, des caisses d'épargne, des banques populaires, se sont mobilisés aux côtés de leurs clients pendant cette période, à la fois de façon agile et massive.
Je rappelle que BPCE finance 20% de l'activité française, les prêts garantis par l'État, ça c'est un des outils que vous saluez évidemment. C'était beaucoup plus calme là, sur la fin de l'été, sur ce front-là, à la rentrée. Est-ce que vous êtes à nouveau sollicité ?
Alors, oui, on l'est. Alors, l'état des lieux, c'est à peu près 120 milliards de prêts garantis qui ont été faits par les banques françaises depuis le début de l'année. 120 milliards auprès de 600 000 entreprises, professionnels, commerçants, artisans. Pour le groupe BPCE, c'est 28 milliards qui ont été faits par nos réseaux pour à peu près 170 000 clients. Donc, c'est des chiffres massifs. C'est vrai que après l'été, septembre, le rythme de demande des PGE s'était ralenti parce que les clients qui en avaient besoin l'avaient fait leur demande et les choses s'étaient bien passées. Nous pensons que avec la deuxième vague, probablement, de nouvelles demandes vont arriver. Et c'est pour ça que, avec les pouvoirs publics, la décision a été prise de repousser l'échéance à laquelle vous pouvez demander des PGE à juin 2021, de manière à
vous
donner
plus. Vous êtes inquiet pour la suite ?
Pardon ?
Vous êtes inquiet pour la suite, Laurent
Mignon ? Non, moi je pense que l'économie française a montré, et les entrepreneurs français, qu'ils avaient la capacité à s'adapter. Donc il faut que les mesures sanitaires laissent aux entreprises la capacité à s'adapter. Et je peux vous dire que les banques françaises seront là, à leur côté, pour les aider.
J'entends le message aussi. Peut-être un peu de souplesse pour les entreprises dans les mesures qui pourraient être annoncées dans les 24-48 heures à venir. Merci beaucoup, Laurent Mignon, à la tête du groupe BPCE, double casquette ce matin. Et puis, du côté de la Fédération bancaire française, en charge des questions liées au climat. Merci Laurent Mignon.
Merci beaucoup.
7h49. Vous êtes sur Europe 1, l'édito politique de Catherine Ney avant de retrouver Nicolas Canteloup. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
Tout de suite retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le président turc multiplie les insultes, les provocations contre Emmanuel Macron, lui recommande de faire examiner sa santé mentale. Il appelle au boycott des produits français. Entre la France et la Turquie, les relations sont plus que houleuses. Ça n'est pas nouveau.
Ah mais pas du tout. Vous savez, Erdogan détestait Nicolas Sarkozy qui s'opposait à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne au motif que c'était un pays d'Asie mineure, qui lui recommandait de regarder son histoire en face et de reconnaître le génocide arménien de 1905. Il s'était rendu en Arménie. Il avait fait voter ensuite en venant une loi réprimant la négation du génocide arménien. Et lorsqu'il présidait le G20, il était passé en coup de vent à Ankara, 5 heures. C'était une claque pour Erdogan.
Et François Hollande ?
Mais lui, sa politique, c'est faire oublier Sarkozy. Il a toujours lu faire l'inverse. Donc lui, il s'était rendu à Ankara, avait reçu le président turc à Paris. Mais on s'est demandé si ce n'était pas un mauvais timing. Parce que c'était au moment où Erdogan multipliait les purges dans la police, l'armée, la justice, la presse, remplissait les prisons, et ça continue. Bref, la Turquie n'était plus un état de droit.
Et Emmanuel Macron aujourd'hui alors ?
Mais entre eux, ça avait plutôt bien commencé. Erdogan avait été reçu à bras ouverts à Paris en janvier 2018, d'ailleurs au moment où ses relations avec Merkel étaient au plus bas. Mais 2 ans et demi plus tard, Macron est devenu la tête de Turc d'Erdogan. Il a été le seul à dénoncer son aventurisme, son intervention militaire en Libye qu'il qualifiait de criminelle, ses chantages aux migrants, ses forages gaziers en territoire chypriote, ses interventions dans le Haut-Karabakh contre les Arméniens. Et pour finir, son discours sur le séparatisme et la lutte contre l'islam radical risque de priver Erdogan à travers les imams turcs de son levier sur l'islam de France et même le contrôle de sa diaspora.
Oui, dans cette situation, Catherine, qui perd, qui gagne ?
Mais pour l'instant, le président turc est en mauvaise posture, la livre turque vient de s'effondrer, l'économie va très mal, la répression continue et il n'a pas beaucoup de soutien. Mais Emmanuel... Pardon.
Mais pardon, Emmanuel Macron.
Oui, j'allais vous le dire. Eh bien, pour lui, dans cette accumulation de crises, c'est presque une éclaircie. Les Européens qui jugent les propos d'Erdogan inacceptables soutiennent. Idem la classe politique unanime, hormis Jean-Luc Mélenchon. Idem le Conseil français du culte musulman, hostile au boycott, qui appelle les musulmans à défendre l'intérêt du pays et qui rappelle qu'en France, les musulmans ne sont pas persécutés comme l'affirme Erdogan. Et ça, dans le contexte actuel, eh bien, c'est plus qu'inouï.
Et vous faites bien de souligner l'influence d'Erdogan sur l'islam de France. Ce matin, dans Le Parisien, Naïda Nakad, qui est spécialiste du Moyen-Orient, qui rappelle à quel point la Turquie finance l'islam en France. 151 imams issus de Turquie, 65% sont des fonctionnaires turcs. Il y en a plus de Turcs que d'Algériens ou de Marocains, alors qu'on a moins de liens historiques, évidemment. Je vais en parler avec mon invité à 8h15. Merci Catherine Ney.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Tous les matins, Nicolas Canteloup vient coacher à sa manière l'invité de 8h15. Et donc ce matin, j'interrogerai Hakim El-Karaoui, essayiste et auteur du rapport « La fabrique de l'islamisme » pour l'Institut Montaigne. Et c'est Marine Le Pen qui est venue coacher l'invité. Ah oui. Il n'en a pas vraiment besoin.
Il n'y a pas vraiment... J'adore votre petit duo avec Mme Ney. Quand vous marchez dessus comme ça, c'est formidable. Écoutez, vous êtes insolent, monsieur Béliard. Mon cher Mathieu, mon joli métis, insolent, hein. Votre invité n'a pas vraiment d'être coaché par moi, c'est ça, sous prétexte que votre invité a fait normal sup et que moi, je ne connais pas mes dossiers, c'est ça Mathieu? C'est ça que vous sous-entendez, petit effronté? Non, je ne suis pas venu coacher votre invité, je suis venu lui dire simplement merci. Merci. En effet, monsieur El-Karaoui parle de la fabrique de l'islamisme. Je ne sais pas où se trouve cette fabrique, mais qu'elle continue, de grâce qu'elle continue à produire, parce que plus elle tourne cette fabrique, plus je monte dans les sondages.
Oui, pardon.
Ah, bonjour.
Excusez-moi, oui, c'est Gwen Royal. Je voudrais souligner l'intelligence supérieure de monsieur El-Karaoui, qui a toujours eu ce côté, ce coup d'avance, ce côté visionnaire, toute sa carrière, vraiment. Vraiment, il est, c'est formidable. Sauf en 2007, hein, où il m'a soutenu à la présidentielle. Hein. Là, il n'a pas été très visionnaire. C'est le seul moment de sa carrière où il s'est planté. C'est donc pour ma pomme. C'est pas de bol quand même.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille l'invité politique de la matinale tous les jours à 7h55. Hakim El-Karaoui, essayiste, ancien conseiller à Matignon, spécialiste de ces questions d'un islam de France, à 8h15 tout à l'heure. Merci Nicolas Canteloup. À tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presse. 7h59, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et c'est de la pluie aujourd'hui, la pluie va gagner toute la France progressivement. Elle est arrivée par la Bretagne ce matin, elle va s'arrêter aux frontières de l'Est dans le courant de la soirée. Mais tout le monde aura eu son arrosage, y compris les Parisiens dans le courant de la journée, de la matinée même. Et tout le sud-ouest sera touché après les averses du matin. C'est une journée assez désagréable dans l'ensemble. Température maximale entre 13 et 18, mais demain mercredi il y aura un petit mieux. Et jeudi le soleil va pousser par le sud. Et on confirme le beau temps, un temps même très doux pour le congé de la Toussaint.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Lorsqu'il n'y a toujours pas cette prise de conscience et que le sport national saura comment détourner les mesures proposées pour que cette épidémie soit à peu près contenue, on sera en difficulté.
L'appel très fort ce matin sur Europe 1 du docteur Patrick Goldstein, chef des urgences au CHU de Lille. Il appelle chacun d'entre nous à adopter des comportements responsables face à une épidémie de coronavirus par endroits incontrôlables. L'exécutif sommet de réagir, réunion de deux conseils de défense aujourd'hui et demain. On se dirige vers un durcissement des mesures, lesquelles nous vous donnons les pistes. Nous serons en Turquie dans ce journal. La presse, la population, comment le pays réagit-il à la montée de tensions entre Paris et Ankara? Nous serons aussi aux États-Unis à tout juste une semaine du scrutin présidentiel. Nous sommes en Géorgie ce matin et le défi de Donald Trump, entretenir la flamme des conservateurs dans cet État du Sud.
Juste après ce journal, les tensions franco-turques, la surenchère d'Erdogan et la réponse européenne, mais aussi l'organisation d'un islam de France en France pour lutter, mieux lutter contre la radicalisation. C'est l'homme qui connaît ces questions Parker, auteur du rapport « La fabrique de l'islamisme » pour l'Institut Montaigne. Je reçois Hakim El-Karaoui à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À quelques heures de l'annonce de nouvelles mesures restrictives face au coronavirus, c'est un cri d'alarme, un cri de colère même, qui est lancé ce matin sur Europe 1.
Patrick Goldstein, chef du service des urgences au CHU de Lille, dont la région est particulièrement touchée. Il était ce matin l'invité du 5-7 d'Europe 1. Il lance un appel à chacun d'entre nous, un appel à la responsabilité.
La seule chose dont je suis sûr, qu'est le simple couvre-feu sur la métropole lilloise, aujourd'hui est insuffisant. Toutes les mesures, aussi bonnes qu'elles soient, pour avoir un effet, doivent être appliquées. Et lorsqu'il n'y a toujours pas cette prise de conscience de « il se passe vraiment quelque chose de très très grave, mais faites gaffe quoi, mais faites gaffe !» Lorsque les gens n'auront toujours pas compris et que le sport national saura comment détourner les mesures proposées pour que cette épidémie soit à peu près contenue, on sera en difficulté. Donc on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, mais il faut absolument qu'elles soient respectées. Le problème n'est pas à boire un verre de plus entre 18 et 21 heures pendant les 2 ou 3 mois qui viennent. Il faut qu'on puisse rapidement inverser la tendance. Sans ça, on ira vers une vraie saturation du système de santé, on ira vers un confinement généralisé, et on ira vers des vacances et des fêtes de fin d'année qui seront tous sauf des fêtes familiales.
Le docteur Patrick Goldstein, chef du service des urgences au CHU de Lille, invité ce matin de Simon Rubin.
Plus de 26 000 nouveaux cas détectés hier, plus de 2 700 malades en réanimation. On se dirige vers un durcissement des mesures.
Bonjour Adrien.
Bonjour.
Réunion de 2 conseils de défense autour d'Emmanuel Macron. Le premier dès ce matin, le second demain. Durcissement des mesures, oui. Mais de quel ordre ? Quelles hypothèses sont à l'étude aujourd'hui ?
Alors on est plutôt en fait dans des nuances de gris que dans des mesures radicalement différentes. Les possibilités sur la table, fermer les commerces non essentiels, avancer le couvre-feu à 19h, l'élargir à tout le week-end, journée comprise, ou carrément confiner certaines zones où la situation est très dégradée, avec en tout cas l'espoir d'arriver à maintenir les écoles ouvertes. Voilà la palette, elle sera discutée ce matin en Conseil de défense autour d'Emmanuel Macron. Des pistes présentées ensuite en fin d'après-midi aux patrons de partis politiques et de groupes parlementaires, aux élus, puis dans la soirée aux partenaires sociaux, car l'exécutif sait que l'adhésion de la population passera aussi par celle des élus et corps intermédiaires. Demain matin, donc, nouveau conseil de défense. Cette fois, il s'agira de trancher et il faudra bien regarder qui fera les annonces. Petites annonces, ce sera Castex. Grosses annonces, ce sera Macron, croit savoir un conseiller, pour des mesures qui pourraient entrer en application très vite, dès cette fin de semaine. On le voit, accélération du chef de l'État avec l'objectif d'enfin arriver à prendre le virus de vitesse.
Les explications d'Adrien Beck. Vous parliez des établissements scolaires qui pourraient rester ouverts avec protocole sanitaire renforcé et demi-classe en lycée.
Autre hypothèse, le télétravail. Le gouvernement pourrait l'imposer, ou en tout cas fortement l'encourager.
Pendant le confinement du printemps dernier, il a concerné plus d'un quart des salariés du privé. Où en est-on aujourd'hui ?
La tendance est largement retombée depuis la rentrée. Un reconfinement signifierait un coup d'arrêt pour les entreprises.
Oui, car pour beaucoup d'entre elles, la rentrée avait été synonyme de reprise. Après un déconfinement lent, puis un été haché par les vacances, aujourd'hui, 70% des salariés sont revenus sur leur lieu de travail. Et logiquement, le télétravail à temps plein, lui, ne concerne plus que 12% des employés. C'est ce qu'indique la dernière étude du ministère du Travail. Alors une reprise, oui, mais une reprise encore très fragile. Un salarié sur 3 travaille dans une entreprise dont l'activité est toujours diminuée à cause de la crise sanitaire. Malgré tout, le moral était revenu depuis quelques semaines. En septembre, 28% des salariés estimaient que leur entreprise ne rencontrerait plus aucune difficulté dans les mois à venir. Mais ça, c'était avant le couvre-feu qui a aggravé les difficultés de certains secteurs, notamment la restauration. Et c'est désormais le spectre du reconfinement qui se profile. Une difficulté supplémentaire pour les entreprises qui vont donc être contraintes de se réorganiser rapidement.
Clément Le Saffre, et j'ajoute que cette nuit, les députés ont voté en première lecture le plan de relance censé permettre le rebond de l'économie face à la récession.
8h05 sur Europe 1. Nouvelle provocation de Recep Tayyip Erdogan hier. Il a comparé la situation des musulmans en Europe à celle des juifs avant la Seconde Guerre mondiale.
Après avoir mis en cause samedi et dimanche la santé mentale d'Emmanuel Macron, après la promesse du président français de ne pas renoncer aux caricatures.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Que pensent les Turcs de cette montée de tension entre Paris et Ankara ?
Eh bien, ils sont quasiment au diapason de la presse locale qui affiche en gros titre « Attention, n'achetez pas des produits français, c'est parfois très virulent », où les Européens sont présentés comme « infectés par la haine des musulmans dans le quotidien sabbat ». Donc, selon Ramazan, croisé ce matin dans le quartier d'origine de Recep Erdogan, son président défend l'islam au sens très large.
Il ne le fait pas uniquement pour nous, c'est pour tout le monde.
pour défendre les musulmans. C'est une question d'équité. Il répond à une attaque injuste avec ses caricatures. Il sera toujours là, à nos côtés.
C'est normal de réagir, ajoute Marine Franco-Turque, même si elle désapprouve le parallèle fait entre la situation des musulmans en Europe et celle des juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Moi, ça me fait de la peine que le président de la République de la Turquie, un pays que j'aime, puisse avoir des idées comme ça. Je peux le comprendre. Parce que cette personne, quand elle est arrivée au pouvoir, toute la communauté internationale savait que c'était une personne qui avait des idées religieuses. On le savait.
Ça ne choquera pas son électorat, dit-elle. Au contraire, Recep Erdogan l'a bien compris et c'est l'autre intérêt qu'il trouve à ses provocations. Après quelques revers dans les urnes aux élections locales, il remobilise sa base sensible aux questions de religion.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie. Le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France. Une officine islamique contre la République. Les mots de Gérald Darmanin ce matin dans Libération. Collectif cité dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, le ministre de l'Intérieur entend proposer sa dissolution. Gérald Darmanin qui a aussi demandé la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis. Va-t-elle rester fermée? Le tribunal administratif doit trancher ce matin après le recours d'une association musulmane.
Le recteur avait fait écho sur les réseaux sociaux de l'appel d'un parent d'élève contre l'enseignement de Samuel Paty. En 2016, une mosquée non loin avait elle aussi été fermée pour dérive islamiste. C'est à Stein, elle a pu rouvrir un an plus tard à condition d'accepter la présence de caméras de surveillance. Pierre Herbulot.
Site placé sous surveillance vidéo. La petite pancarte bleue discrète est accrochée sur la façade de la mosquée.
Caméras partout.
C'était l'une des conditions à la réouverture, raconte Anwar El-Dachori, le dirigeant du lieu de culte.
C'est les préfectures qui m'ont demandé déjà pour les caméras déjà. On est en France, on respecte les lois de France.
À l'étage, dans un bureau privé, la salle de prière apparaît sous tous les angles sur un écran de télévision. Des images que la préfecture peut consulter à tout moment. Pas de problème pour Radel Abdel Fadil, le nouvel imam. Il se qualifie lui-même de modéré.
Ça ne m'agime pas, parce que je suis sûr de ce que je dis. Le respect de la religion et le respect de ce pays. Donc ça ne m'agime pas d'être visionné par les caméras de préfecture. Non.
Un changement d'imam et quelques caméras, une concession tout à fait supportable en échange de la réouverture de la mosquée. Pour Samy, infidèle.
Faut relativiser en vrai, c'est pas là. Après, t'as des mecs qui vont pas apprécier. Ils vont te dire, ouais, non, mais pourquoi nous, on va dire une mosquée, tu mets des caméras, mais tu vas pas en mettre à l'église, tu vas pas en mettre dans la synagogue. Mais personnellement, j'y vois rien de méchant.
Enfin, pour en montrer patte blanche, la mosquée a également nommé une équipe de vigilance, des fidèles chargés de faire remonter tout agissement contraire aux valeurs de la République.
Aux États-Unis, un jour historique pour l'Amérique. La jubilation de Donald Trump cette nuit, la juge Amy Coney Barrett a été confirmée par le Sénat à la Cour suprême et ce, à tout juste une semaine du scrutin présidentiel face à Joe Biden.
Comme tous les jours dans le journal de 8h, votre carnet de la campagne présidentielle, Théo Manval, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en Géorgie ce matin, État du Sud, très conservateur, mais peut-être en train de vaciller. C'est inattendu. Joe Biden est devant dans les sondages d'une très courte tête. Il y sera d'ailleurs en campagne aujourd'hui. Une victoire démocrate serait un séisme pour le camp Trump, qui espère donc mobiliser son électorat avec ce coup de force concrétisé hier soir à la Cour suprême.
Oui, un signal fort envoyé à sa base la plus traditionnaliste. Ici en Géorgie, il n'est pas rare de voir, par exemple, des fidèles se relayer devant les cliniques qui pratiquent des avortements. Margarita y passe plusieurs heures par jour à prier, tenter de convaincre les femmes de renoncer. Alors cette majorité consolidée à la Cour suprême, instance qui tranche sur les questions de société, c'est pour elle un très grand pas.
J'espère que ça permettra de revenir sur la loi autorisant l'avortement. Parce que c'est une loi injuste, une offense à Dieu. Il a créé ces bébés. Et c'est aussi une immense atteinte contre les femmes. Ça crée tellement de douleurs.
Dans les locaux de l'association Géorgie pour le droit à la vie, Geneviève Wilson espère aussi qu'il est encore temps pour que ce succès du président déclenche un nouvel élan dans les urnes.
Plus de 3 millions de personnes ont déjà voté ici. Donc les gens que ça pourrait mobiliser sont justement en train de le faire. Mais peut-être qu'entendre ça à la radio, ça rappellera à certains qu'il faut aller voter, amener plus de gens. J'espère, vraiment.
Car comme tout le monde, elle a vu les sondages, un point à un demi-point d'avance pour Joe Biden. La Géorgie est en train de se progressiser, entre guillemets, sur fond de lent changement démographique. Les minorités gagnent du terrain, résume Geneviève, et c'est vrai, en 20 ans, la part de la population blanche dans l'État est passée de 70 à moins de 60% quand les Afro-Américains et les Hispaniques représentent plus d'un tiers des habitants désormais. La nouvelle génération de votants ici, c'est celle de Janaya, 20 ans, Afro-Américaine, et aux priorités tout autres.
L'égalité raciale, pour moi, c'est la première chose. Un meilleur système de santé aussi, Trump essaye de le démanteler, Biden, au contraire, veut l'étendre. Et il parle des violences policières contre les gens de couleur. Moi, je suis noire et je n'aime pas sortir, conduire la nuit ici. Je ne me sens pas en sécurité. C'est un enjeu pour notre futur.
Et c'est donc sur des gens comme elle que Joe Biden mise ici. Avant sa venue aujourd'hui, il inonde déjà les radios de spots publicitaires. Mais avant lui, seuls deux démocrates l'ont emporté en Géorgie, Bill Clinton en 92 et l'enfant du pays, Jimmy Carter.
Théo Manval, carnet de campagne tous les jours à 8h dans le journal de 8h sur Europe 1. Théo, vos reportages détaillés, photos à l'appui à retrouver sur europe1.fr.
Et puis tiens, je voudrais vous faire écouter simplement ce petit épisode dans cette folle campagne américaine lors d'une interview télévisée dimanche soir. Le candidat démocrate Joe Biden semble oublier le prénom de son adversaire, Donald Trump.
Quel pays allons-nous devenir ? 4 ans de plus de George, on va se retrouver dans une position où si Trump est élu, on sera dans un monde différent.
Ouais. Vous avez entendu George ? Joe Biden m'a appelé George hier soir, il ne pouvait pas se souvenir de mon nom, a tweeté Donald Trump, qui surnomme sans cesse son adversaire Sleepy Joe, Joe l'endormi. Autant vous dire que ça a beaucoup amusé les républicains, les supporters de Trump sur les réseaux sociaux.
Et puis le foot, Marseille, Manchester City, deuxième journée du premier tour de la Ligue des Champions ce soir. Ce sera dur pour les Marseillais face à un favori de la compétition. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h autour de Lionel Rousseau.
Merci Jérôme Lacroix. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, l'invité politique de la matinale, grand connaisseur des questions liées à la radicalisation, à la lutte contre l'islamisme, à l'organisation d'un islam de France, expert aussi de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Dans un instant, Hakim El Karaoui, invité politique d'Europe Matin. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. Mon invité est essayiste, ancien conseiller à Matignon et auteur du rapport La fabrique de l'islamisme pour l'Institut Montaigne. Bonjour Hakim El Karaoui.
Bonjour David Béliard.
Mathieu. David Béliard. Alors, je vous aurais pas corrigé si vous m'aviez appelé Clément ou Jean-Pierre ou Jean-Claude, mais là c'est un homme politique, je suis obligé de vous corriger. Tentons Hakim El Karaoui autant que possible d'être constructif sur ces dossiers extrêmement sensibles. La surenchère diplomatique, si l'on peut encore parler de diplomatie. Le bras de fer franco-turc, vous connaissez le profil d'Erdogan. Il parle à sa population, aux musulmans du monde. Le risque pour nous, c'est que c'est une voix qui s'élève contre le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut trouver des oreilles attentives ? Est-ce qu'Erdogan parle aux musulmans en France ?
D'abord, il faut déconstruire son discours, comprendre le contexte. Le contexte économique de la Turquie, très difficile. La crise du Covid, mais avant la crise du Covid, la dévaluation de la monnaie, l'hyperinflation, la hausse du chômage, on est à 14 ou 15 points de chômage. La deuxième chose, c'est qu'il est prisonnier d'une coalition politique. Il a besoin d'ultranationalistes. Les ultranationalistes turcs, qu'est-ce qu'ils détestent ? Les Kurdes, il est présent au Kurdistan, Chypre, l'Arménie et la Grèce. Donc il a ouvert des fronts partout où politiquement il en avait besoin. Ensuite, il écrit une histoire. Et il ne faut pas qu'on prenne pour argent comptant son histoire. Il écrit deux histoires même. L'histoire du retour du sultan, le sultan ottoman qui va régner sur la Méditerranée et le Proche-Orient. Et l'histoire du calife. Depuis la fin de Daesh, il n'y a plus de calife. Donc il se réinstalle dans cette idée qu'il va être le patron des musulmans.
De la Oumma, la communauté musulmane mondiale. Mais si je vous posais la question ainsi, et nous le développons dans nos journaux sur Europe 1 aujourd'hui, l'alerte terrorisme est au plus haut. Est-ce qu'Erdogan, avec ce discours-là, avec cette façon, est-ce qu'Erdogan, ce n'est pas celui qui met une cible sur le dos des Français ?
Franchement, c'est pas ce que font les Turcs. De ce point de vue-là, je suis plus inquiet de la réaction du Premier ministre du Pakistan, qui a condamné très fermement les caricatures
en disant en qu'Emmanuel Macron attaque l'islam.
Voilà. Et le Pakistan, il y a des madrassas, il y a tout un écosystème djihadiste beaucoup plus organisé qu'en Turquie. Les Turcs font de la politique. Au Pakistan, je ne parle pas du gouvernement pakistanais, hein. Je parle d'individus pakistanais. On a des gens très dangereux. D'ailleurs, le terroriste d'il y a 3 semaines était pakistanais et arrivé en France de fraîche date. Donc non, je n'ai pas une grande inquiétude sur le plan de la sécurité liée aux propos d'Erdogan. Par contre, ça pose évidemment des grands problèmes politiques et diplomatiques.
Parce que c'est vrai, Hakim El Karaoui, si on met le personnage d'Erdogan de côté, il y a ces appels au boycott, cette réaction du monde musulman. Vous parliez du Pakistan, on a vu le ministre des Affaires étrangères marocain aussi. Ce que porte la France, la laïcité, le droit au blasphème, la culture de la caricature et de la liberté d'expression. Nous, on trouve ça évident ici. Ce n'est pas forcément le cas en dehors de nos frontières.
Oui, dans le monde musulman, mais d'ailleurs pas seulement.
Je pensais pas
dans le
monde
musulman.
Vous
avez rappelé que j'étais conseiller à Matignon en 2004, au moment de la loi sur le voile. Je me souviens de Dominique de Villepin disant « Les Américains ne nous comprennent pas ». D'ailleurs, quand on voit la presse aujourd'hui américaine, le New York Times, le Washington Post, ils ne comprennent pas le modèle français d'intégration, le modèle français de laïcité. Donc, on a un gros travail de pédagogie à faire. Il faut qu'on explique ce qu'est pour nous la liberté d'expression et, au-delà de la liberté d'expression, la liberté, notre relation à la religion, qui est une affaire privée, avec une séparation entre l'Église et l'État, et la liberté de blasphème et de caricature.
Même chez nos partenaires, le soutien est là, sur la scène de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut obtenir une décision de sanction à 27 contre la Turquie? Ça, c'est moins évident. Hein.
C'est moins évident, c'est pas forcément sûr qu'on en ait besoin. À ce stade. Il y a eu, tous les Européens ces derniers jours, se sont ralliés à la France pour condamner les propos du président turc. C'est déjà pas mal.
On va prendre ce qu'il y a à prendre. Puisqu'on parle d'Europe, Hakim El-Karaoui, je voudrais vous faire écouter un extrait issu de la télévision suédoise. C'est l'ambassadeur de France en Suède, la voix de la France en Suède. Il répond aux questions d'un journaliste suédois. Écoutez.
La France a rappelé son ambassadeur en Turquie. Y a-t-il un risque que cela se transforme en conflit entre la France et le monde musulman ?
Alors d'abord, la France est un pays musulman. L'islam est la deuxième religion du pays. Il y a entre 4 et 8 millions de Français qui ont un héritage culturel musulman.
On peut dire ça aussi simplement que ça ? La France est un pays musulman ?
Écoutez, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'islam, une religion française ». Alors c'est dans l'autre sens. C'est pas la France qui est un pays musulman, c'est l'islam qui est une religion française. Il y a à peu près 6 millions de Français qui sont de culture ou de religion musulmane. C'est effectivement la deuxième religion du pays. L'islam est devenu une religion française. Et on parle, et c'est normal, de tout ce qui va pas. Il faut aussi qu'on parle de tout ce qui va bien, de temps en temps.
Bien sûr, parce qu'il faut, c'est pour ça que je vous posais la question. Il faut peut-être l'intégrer. Gérald Darmanin, dans Libération ce matin, le dit, une très grande partie des musulmans de France sont les premiers à demander des actes forts de la part de l'État français.
La première cible des islamistes, notamment pour faire changer la façon d'être musulman, ce sont les musulmans. À qui on demande, sur lesquels il y a une pression idéologique et religieuse qui est très forte. La deuxième chose, c'est que les musulmans ont pu construire des mosquées, ont pu s'installer dans le paysage d'une façon finalement assez sereine. La troisième chose, je voudrais le rappeler, la violence des attaques. Depuis 2012, ça a commencé avant, mais depuis 2012, et puis 2015, Charlie, l'hypercachère, le Bataclan, Nice, la décapitation d'un professeur devant son école. La société tient. Et les Français de confession musulmane le savent. Ils savent qu'il se serait passé la même chose au Maghreb, par exemple, avec des attentats commis par des gens d'origine étrangère. Il y aurait eu très, très, très probablement des représailles physiques très violentes. La société française tient. Il faut le rappeler, c'est aussi une bonne nouvelle.
Vous voulez le souligner, la société française tient. C'est important de le rappeler. Il y a eu le discours d'Emmanuel Macron début octobre au Mureau sur le séparatisme. Vous aviez réagi à Hakim El-Karaoui à ce moment-là. Tout ne va pas se faire en 6 mois. Déjà, pour avancer, le chantier numéro 1, c'est quoi ? C'est le financement de l'islam de France ?
Pour moi, c'est le chantier le plus discret, le plus important. Le plus important parce que c'est comme ça qu'on va rompre avec les ingérences étrangères. Le président de la République a dit qu'il fallait arrêter l'islam consulaire. Quand on voit ce qui se passe avec la Turquie, je pense qu'on a la preuve qu'il faut arrêter effectivement que la Turquie envoie 150 imams chaque année pour prêcher.
En préparant ce matin, j'ai découvert ça. 151 imams issus de Turquie, dont 65% sont des fonctionnaires turcs.
Voilà, et on les appelle des assistants sociaux. Pour mémoire, il y a 30 Marocains et 120 Algériens. Donc, il faut rompre avec ces envois d'imams. C'est une forme d'ingérence. Le système des instituteurs, vous savez, qui viennent dans les écoles apprendre la langue d'origine, a aussi été réformé pour être contrôlé. Mais derrière ça, si on n'a pas un financement endogène de l'islam et du culte, on aura toujours la tentation d'aller chercher de l'argent à l'étranger. Donc, le travail qui est fait, notamment avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite ? Parce que le pèlerinage est un des 5 piliers de l'islam. Et ne vont au pèlerinage que des musulmans. La différence, par exemple, avec la viande halal qui peut être consommée par des non-musulmans. L'idée, c'est quoi ? C'est de prélever une petite redevance, de rendre un service aux fidèles et d'être rémunéré avec une petite redevance et que cette petite redevance soit réutilisée, réinvestie pour, par exemple, la formation des imams en France. Il y a plein d'argent aujourd'hui qui circule au nom de l'islam en France. L'essentiel, d'ailleurs, ce sont les dons. C'est beaucoup plus important que l'argent étranger. Mais ces dons, il faut les capter pour des causes nationales et pas seulement pour construire des mosquées locales.
Vous avez précisé hein, la nuance, on parle du pèlerinage. À une époque, vous parliez de taxes sur les produits halal, c'était la mauvaise cible.
Alors, je n'ai jamais parlé de taxe, parce que la taxe, c'est un impôt de l'État. Il ne s'agit pas d'avoir un financement par l'État. J'ai toujours parlé de redevance. La redevance, c'est la redevance qu'il y a, par exemple, sur la viande cachère. Le consistoire central du judaïsme français se finance à moitié par un service qu'il rend autour du cachère. On peut imaginer la même chose autour du halal. C'est plus compliqué que le pèlerinage. Donc, on commence par le pèlerinage. Si ça marche, l'organisation, la MIF que j'ai créée, sera visible de la part des fidèles. Et pour la première fois, ils verront une organisation qui travaille pour l'ensemble de la collectivité.
Sur cette question, on a tendance à oublier ces dernières semaines le volet géographique et social, finalement, dans la question du séparatisme. Et je rappelle l'apartheid social, territorial et ethnique dont parlait Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre. Votre dernier rapport pour l'Institut Montaigne, le titre est tout un programme. Les quartiers pauvres ont un avenir extrêmement positif. D'abord, ces quartiers, ces cités, ces banlieues dont on parle, ils apportent à la nation, ils contribuent.
Oui, tout ne va pas si mal. Si vous prenez la création d'emplois depuis 10 ans, la Seine-Saint-Denis a contribué à 29% de la création d'emplois en France. Personne ne sait. Si vous regardez le financement de la protection sociale, les quartiers pauvres des grandes villes sont en fait peuplés de gens jeunes et de très peu de retraités. Il se trouve que la protection sociale va aux deux tiers aux retraités. Et donc, on a un autre élément inattendu, c'est que la Seine-Saint-Denis est le 8e contributeur au financement de la protection sociale et, tenez-vous bien, le dernier receveur. Alors que c'est le département le plus jeune de France.
Il y a beaucoup d'idées reçues. Hein.
Beaucoup. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que des quartiers pauvres urbains, il y en a évidemment dans les grandes métropoles, il y en a aussi dans les petites villes. Et d'une certaine manière, c'est plus dur dans les petites villes que dans les grandes métropoles. Parce que dans les grandes métropoles, vous êtes à proximité de la richesse. Vous êtes aspiré par l'extraordinaire dynamisme, notamment de l'agglomération parisienne. Quand vous êtes à Montauban, à Pontarlier ou à Béziers, c'est beaucoup plus difficile.
Et vous dites qu'il faut arrêter d'investir dans la pierre et plutôt investir dans les gens. Et pas tant en question d'argent public hein, dans ce que vous dites.
Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'investir dans la pierre. Je dis qu'il faut investir plus dans les habitants et pas seulement dans les bâtiments.
Et y croire un peu aussi.
Il y a beaucoup moins de fonctionnaires par habitant dans les quartiers pauvres que par exemple dans ce qu'on appelle la diagonale du vide entre l'Ariège et les Ardennes. Et puis, on manque aussi de technologie. On ne peut pas enseigner de la même manière à une classe où 8 enfants sur 10 ne parlent pas français à la maison qu'à une classe où tout le monde parle français à la maison. Et puis, la dernière chose qui est très importante, c'est que on parle de séparatisme, on parle de communautarisme. Entre 82 et 2015, la proportion d'immigrés en Seine-Saint-Denis est passée de 15 à 30%. Dans le Val-de-Marne, elle est passée de 13 à 21%. En France, elle est passée de 7,5 à 9,2. Donc, proportion d'immigrés en France a très peu augmenté. Par contre, tous les nouveaux immigrés sont venus en Île-de-France. Et évidemment, si on concentre toute la nouvelle immigration au même endroit, bah après, on a des difficultés d'intégration.
La question géographique et sociale. Hakim El-Karoui, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous présidez, je le rappelle, l'Association musulmane pour l'islam de France, parmi les titres qui sont les vôtres. Et j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site de l'Institut Montaigne, parce qu'en fait, tous vos rapports dont on a parlé ce matin sont en accès libre, il suffit de les télécharger. Et c'est un PDF, c'est extrêmement simple. Merci mille fois d'avoir répondu à nos questions. Je pense que nos auditeurs ont appris des choses et c'est bien l'essentiel.
Merci
Hakim El-Karoui, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info, la météo dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Émilie Dez.
Emmanuel Macron réunit aujourd'hui et demain deux conseils de défense consacrés à l'épidémie de coronavirus qui continue de progresser. De nouvelles mesures seront certainement prises dans les jours à venir. Plusieurs scénarios sont sur la table. On parle notamment d'un couvre-feu avancé à 19h, d'un confinement le week-end ou encore de reconfinement dans les zones où le virus circule activement. D'autant que selon les informations d'Europe 1, le nombre d'amendes pour non-respect du couvre-feu explose. Les contrôles et les verbalisations ont été multipliées par deux, Guillaume Biais.
Oui, c'est une hausse spectaculaire, presque aussi rapide que la propagation du virus. D'après nos informations, le week-end dernier, les forces de l'ordre ont contrôlé plus de 21 000 personnes durant la nuit de samedi à dimanche. C'est deux fois plus que le week-end précédent. C'est vrai qu'entre-temps, nous sommes passés à 54 départements sous couvre-feu. Et lors de ces contrôles, près de 3 000 personnes ont été verbalisées, auxquelles il faut ajouter un millier de contrevenants qui ne portaient pas de masque samedi dans les secteurs où c'est pourtant obligatoire. À l'inverse, les restaurants et les commerces respectent les mesures. Sur les 19 500 contrôles menés la semaine dernière, seuls 430 établissements ont été épinglés selon nos informations et 11 ont été frappés d'une fermeture administrative.
Et plus de 2700 malades sont désormais hospitalisés en réanimation. 357 nouveaux cas ont été admis ces dernières 24 heures, du jamais vu depuis avril. La tension est encore montée d'un cran entre la France et la Turquie. Le président Erdogan appelle à boycotter les produits français. Des menaces inacceptables pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le président du MEDEF appelle les entreprises françaises à résister au chantage. La dernière ligne droite avant les élections présidentielles américaines. Ce sera dans une semaine tout juste. Le Sénat a confirmé cette nuit la nomination de la juge Barrette à la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays qui est désormais solidement ancrée à droite. En France, Michel Fourniret et Monique Olivier sont de retour dans les Ardennes, là où le tueur en série est accusé d'avoir séquestré et tué en 2003 Estelle Mouzin. Il a été emmené hier dans le village de Ville-sur-Lume. Les enquêteurs espèrent raviver la mémoire de Michel Fourniret, Lionel Gougelot.
Effectivement, et pour pouvoir déclencher d'éventuelles fouilles à partir des indications de Fourniret, la justice avait déployé un impressionnant convoi judiciaire d'une vingtaine de véhicules avec des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle, de la gendarmerie, des militaires du génie spécialisés dans la détection de corps humains, avec en appui un drone et un géoradar pour en quelque sorte radiographier le sous-sol. Le premier arrêt dans la villa de Ville-sur-Lume, où Estelle Mouzin aurait été séquestrée, violée et tuée, n'ayant a priori pas fait réagir Michel Fourniret, le dispositif s'est transporté vers un cimetière près de Charleville-Mézières, un endroit jusqu'alors jamais inspecté. Et là, pendant près de 2 heures et à la nuit tombante, les enquêteurs ont balayé les allées, les abords de ce vaste cimetière à l'aide de projecteurs. Mais là encore, la mise en situation de Michel Fourniret n'a, semble-t-il, provoqué aucun déclic chez le tueur en série, aujourd'hui âgé de 78 ans et que l'on dit très diminué. Au cours d'un interrogatoire, Fourniret ayant jugé pertinent que le corps d'Estelle Mouzin se trouve dans l'une de ses anciennes propriétés, le dispositif pourrait être déplacé aujourd'hui au château du Sautou, dans le même secteur, là où ses deux premières victimes avaient été exhumées en 2004.
Lionel Gougelot pour Europe 1. Et puis il y a du football ce soir, deuxième journée de Ligue des Champions. Marseille affronte Manchester City à 21h, soirée spéciale dès 20h ce soir sur Europe 1 autour de Lionel Rousseau.
Merci Émilie Dez, c'était le journal, il est 8h34 et Laurent Cabrol est là, il attend, il est en train de nous expliquer que la pluie arrive, c'est ça?
Oui, on l'a surveillé depuis ce matin, à 5h, elle a commencé au moment même où notre matinale ouvrez les yeux, bien elle aussi a ouvert les yeux sur la Bretagne. Et la perturbation est entrée sur la France depuis, elle chemine, elle trottine, et quinca, elle va nous envahir. Et vous verrez que cette perturbation aura touché à la fin de la journée, pratiquement, on peut le dire même, toute la France, à un moment ou l'autre. Alors pour l'instant, c'est la partie ouest, elle est le long des côtes, elle descend jusque pratiquement à Bordeaux, elle est à la hauteur de Dieppe, et là, elle va gagner la région parisienne aussi, dans la matinée. Enfin bref, tout le monde aura son passage pluvieux copieux, et puis avant, des averses et après des averses. Donc c'est une journée maussade et humide avec des températures qui ne doivent pas nous surprendre. Ce sont les mêmes que celles d'hier. 13 à Lille, 14 à Paris, 15 à Lyon, 16 à La Rochelle. Tiens, à Lyon, nous aurons des éclaircies au passage. 17 à Brest, 18 à Marseille, 19 à Nice et 20 degrés à Bastia. Telles sont les températures maximales. Mais on continue de dire que le congé de la Toussaint sera un congé sympathique. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h35. Vous êtes sur Europe 1 et dans un instant, on prend soin les uns des autres. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, notre planète avec Fanny Agostini. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nous en parlons depuis quelques semaines. Ça y est, les tests rapides de diagnostic du Covid arrivent enfin et devraient être déployés très prochainement. Est-ce que nous pourrons tous les utiliser ?
Alors tout d'abord Mathieu, vous faites bien d'appeler ça des tests rapides et pas des tests salivaires, car pour le moment, on sera encore obligé de le faire en nasopharyngé. Vous n'échapperez pas au petit coton-tige dans le nez, puisque la salive...
Enfin petit,
le coton-tige, oui, ça, il est assez grand.
Merci.
Pour l'instant, il n'est pas validé en salivaire. Alors, on peut le faire dans certaines situations. Il y a la Haute Autorité de Santé qui a validé ces tests dans deux situations essentiellement. La première, si jamais vous avez des symptômes, vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez des courbatures, vous avez des maux de tête, eh bien là, vous pouvez vous faire tester dans les 4 premiers jours qui suivent l'apparition des symptômes. Si on attend plus longtemps, 5, 6 ou 7, il est possible que le test soit à tort négatif. Mais attention, chez les patients fragiles, ceux qui sont à risque de complications du coronavirus, les patients qui ont plus de 65 ans, diabétiques, hypertendus, eh bien là, si jamais le test est négatif, vous êtes obligé de le confirmer malgré tout par un test PCR classique, puisque l'idée c'est de ne pas passer à côté de contamination chez ces personnes, puisqu'on sait qu'elles vont faire des formes graves et donc elles vont nécessiter une surveillance particulière. Donc pour elles, retour au laboratoire si le test est négatif. Ensuite, en ce qui concerne les cas contacts, si jamais dans votre entreprise vous avez une personne qui est positive et que vous êtes un cas contact, ce test salivaire rapide antigénique n'est pas validé. Vous êtes obligé de passer par la case laboratoire pour faire une PCR. Enfin, c'est l'arme la plus intéressante pour les personnes qui n'ont aucun symptôme, qui ne sont pas des cas contacts. Eh bien là, on peut faire ces tests puisqu'on va pouvoir cibler les lieux qui sont confinés, qui favorisent la transmission du virus, comme les universités, les abattoirs ou les EHPAD, histoire de débusquer les clusters et d'aller un peu plus vite et gagner du temps sur le virus. C'est tout l'intérêt de ces tests, être un peu prospectif plutôt que rétrospectif.
Et côté pratique, est-ce qu'on peut imaginer les faire seuls au domicile sans passer par un professionnel de santé ? D'ailleurs, est-ce que ces tests sont fiables aussi ?
Alors pour l'instant, non, malheureusement, vous êtes obligé de passer par un médecin, une infirmière ou un pharmacien, puisque l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on vous fait un test, il faut qu'on puisse les tracer. Imaginez, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, on fait tous notre test dans notre petit coin, on est content, c'est positif ou négatif, sauf qu'aucune donnée n'est remontée. Et à ce moment-là, lorsqu'on suit l'épidémie, on va croire à tort que celle-ci s'améliore ou qu'elle s'aggrave. Et donc, on a besoin d'une remontée dans des logiciels. En ce qui concerne la sensibilité, l'efficacité, eh bien, ils ont été validés, ils sont plutôt pas mal, ils sont au moins sensibles à 80%, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on vous fait un test et que vous êtes positif en temps normal, vous avez 8 chances sur 10 que votre test soit positif. Donc, ils sont assez validés, ils sont assez bien, quasiment aussi performants qu'un test PCR, donc on peut leur faire confiance.
Jimmy Mohamed, je vous garde avec nous juste un instant, il y a cette dépêche dans la nuit, une étude britannique de l'Imperial College de Londres, qui nous dit... Les résultats de cette étude suggèrent que les personnes qui n'ont pas montré de symptômes liés au Covid-19, les fameuses asymptomatiques, sont susceptibles de perdre plus rapidement leurs anticorps détectables. Sans tirer de conclusion, parce qu'on ne sait pas encore le niveau d'immunité conféré par ces anticorps, etc. Est-ce que vous, en tant que médecin généraliste, vous voyez des recontaminations, beaucoup ?
Oui, j'en vois de plus en plus des personnes qui ont fait des formes légères à modérées, à peine la perte du goût et l'odorat, à peine de la température. À titre personnel, j'en ai déjà vu une dizaine à mon petit niveau. Donc oui, on perd l'immunité finalement peut-être plus rapidement que ce qu'on croit. Donc ce appel à la vigilance, vous n'avez pas de totem d'immunité une fois que vous avez attrapé le coronavirus.
Et ça, c'est important de le souligner, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci Jimmy Mohamed. 8h41 sur Europe 1, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Fanny, vous nous dites ce matin qu'à l'avenir, les vétérinaires pourraient travailler avec les médecins.
Oui, d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir l'avis du docteur Jimmy Mohamed sur la question. Attention, hein, je ne dis pas qu'un vétérinaire pourrait remplacer un jour notre médecin de famille. C'est pas ce que je veux dire. Je veux vous dire ce matin que la santé humaine et la santé des autres animaux sont étroitement liées. On le savait déjà sans le scander et c'est vraiment la pandémie de la Covid-19 qui a tout bousculé et qui a joué le rôle d'accélérateur de conscience avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale qui partagent aujourd'hui plus que jamais la même approche en soutenant l'initiative One Health. Comprenez, une seule santé qui représente un collectif de plus de 850 médecins et vétérinaires qui considèrent qu'il faut plus de transversalité et de partage dans les travaux de recherche tout comme dans les applications en partant de ce nouveau principe que la santé humaine et la santé animale constituent un seul et même combat.
C'est en effet facile à comprendre, on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade.
Absolument impossible pour l'humain de respirer la santé sur une planète suffocante, c'est certain. Et la dégradation de l'environnement multiplie les risques de zoonoses, c'est-à-dire de maladies infectieuses capables de franchir la barrière interespèce, donc de passer d'une espèce à une autre et d'être transmise à l'humain. C'est ce qui s'est passé, on le sait, pour le pangolin, mais aussi avec le virus Nipah en Malaisie, où l'installation d'élevage intensif de porcs est venue détruire les forêts tropicales. Les cochons mangeant les fruits tombés des arbres qui avaient auparavant grignoté des chauves-souris porteuses de la maladie, ce qui a entraîné la propagation du virus jusqu'à l'humain qui a consommé cette viande de porc contaminée. Alors c'est aussi le cas du Zika, de l'Ebola, de la dengue, du chikungunya et bien d'autres qui ont tous pour point d'origine l'empiétement et la destruction des milieux sauvages.
Nous devons davantage préserver ces milieux sauvages et tenir une certaine distance, mais aussi se préoccuper de la santé des animaux d'élevage.
C'est ça, appliquer des gestes barrières en gardant une certaine distance avec les animaux sauvages et prendre aussi davantage soin des animaux d'élevage pour notre propre santé. Cela fait partie des grandes préoccupations pour l'avenir car l'intensification des méthodes d'élevage a eu un grand tort. C'est celui d'avoir la main lourde sur les trans antibiotiques. On se rend compte aujourd'hui qu'à travers la consommation de leur viande, nous ingérons aussi des antibiotiques sans nous en rendre compte, ce qui favorise l'antibiorésistance avec un risque accru de voir apparaître de nouveaux pathogènes contre lesquels nous n'aurons pas d'armes pour lutter. Alors tout comme les néonicotinoïdes ne sont pas qu'une affaire d'abeilles, il est urgent aujourd'hui que nos politiques, tout comme les professionnels de santé humaine et animale, aient une approche davantage systémique et unifiée de la santé publique.
Des solutions en tout cas dans votre voix. Fanny Agostini, Notre Planète, merci beaucoup. Il est 8h43. Nicolas Canteloup et Julie s'installent. La revue de presse dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actualité. Et non pas David, comme je l'ai entendu ce matin.
Oui, bonjour, monsieur. Oui, David. Mathieu Béliard. Bon, ben, entre George Trump tout à l'heure avec Joe Biden et David Béliard, c'est la fête au prénom ce matin. Oui, c'est Mathieu. Mathieu Béliard, à votre service, l'homme orchestre, disons-le, le Rémi Bricat de la matinale. Oui, je m'auto-proclame Rémi Bricat. C'est vrai que je fais tout. Je fais tout. Bienvenue sur Europe 1, Radio Béliard, quelque part. L'info du jour, c'est Erdogan. Erdogan qui poursuit sa montée en puissance contre Paris. Alors que, franchement, entre la pluie, le froid, le couvre-feu, le terrorisme, le possible reconfinement, on en a parlé, que les Turcs ne mangent plus de vache qui rit, on s'en tamponne. On le dit à nos habitudes. D'ailleurs, je le dis, tiens, allez, je le dis au président. Les Français sont prêts pour l'annonce du reconfinement, on est déjà tous au bout du rouleau. Ça pourra pas être pire, de toute façon. Pardon, attendez, on me dit dans excusez-moi, oui, parce qu'il y a Jean dans l'oreillette, mon réalisateur, qui me dit qu'il n'y aura pas de pénurie de pâtes dans les rayons. Ah ben alors ça va, on va rester enfermés jusqu'à Noël, mais la bonne nouvelle sur Europe 1, parce qu'on est positif sur Europe 1, on est positif, il y aura des nouilles, c'est la bonne nouvelle, il n'y aura rien des nouilles, ce sera aussi donc votre, certainement au menu de votre Noël, les nouilles.
Oh.
L'autre info, ce sont les mesures envisagées pour endiguer l'épidémie. Fermeture des commerces, le télétravail massif et le maintien des écoles. Ben écoutez, alors ça c'est encore une deuxième bonne nouvelle. S'il y a le maintien des écoles, c'est vrai que ça change tout. Un confinement sans les enfants, c'est vraiment, on le sait, des vacances pour nous
des
tous.
Des vacances.
Ah, oui, je l'ai vécu. Enfin, je ne l'ai pas vécu, justement. Sans les enfants, ça sera mieux. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. Allez, on va parler de cette famille musulmane qui a été expulsée par Gérald Darmanin parce qu'ils avaient tondu leur fille amoureuse d'un chrétien. Bonjour, Marine Le Pen.
Oui, bonjour, madame. Bonjour à votre joyeuse Mala. Quelle ambiance détendue ce matin. Bonjour au docteur Johnny Abdullah. Oui, ça devient compliqué de trouver des synonymes. Et bonjour, joli métis. Oui, je suis intervenu tout à l'heure au Côte-C. Écoutez, je le dis solennellement aux islamistes, à tous les islamistes, arrêtez de prendre les gens pour des moutons. Ils les égorgent, ils les tondent. Bientôt, on va entendre que pour faire du lait, une femme a été traite. Ou je ne sais pas comment on dit. Bon, bref.
On ne sait pas.
On demandera à Maître Capella. Écoutez, donc je le dis, non, ce n'est pas l'amour dans le pré, là. On est d'accord.
Alors, l'avocat de la jeune fille regrette évidemment l'expulsion de sa famille. Elle aurait souhaité que la fille puisse dire au revoir à sa famille. Bah oui.
Oh oui, oui, la pauvre petite. Elle est toute seule en France maintenant, désormais. Et en plus, elle ne peut même pas pécho de mec. Excusez-moi d'être trivial, mais elle est tondue.
Oh là, oh là là.
Bah, écoutez, qui va vouloir d'une fille chauve? Alors, moi, je le dis, je te soutiens. Oui, moi, il faut quelqu'un pour la soutenir. Je te soutiens, ma sœur musulmane. Je sais ce que tu as vécu parce que je suis passée par là aussi, sister.
Comment ça? Vous êtes passée par là aussi, vous, Marine Le Pen?
Ben non, mais bien sûr, oui. Mais quand mon papa a appris que j'avais fait rentrer les homosexuels au Front National, il m'a tondu aussi.
Oh là là. Bon,
c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant 3 mois, le temps que ça repousse.
Oh là là. On va arrêter là avec elle, je crois. Hein. Allez, on vous laisse, Marine Le Pen.
Revenez aux archives.
Ouais. L'escalade se poursuit donc entre la Turquie et la France. La tension est encore montée d'un cran hier, alors qu'Emmanuel Macron préparait son plan de riposte. Monsieur le Président, dites-nous, qu'est-ce que vous comptez faire? Oula, c'est sérieux. Monsieur le Président?
Bonsoir, oui, j'attendais l'intro. L'intro, mais comme elle est interminable. Pardonne-moi, un peu sérieux.
Pour qu'on reconnaisse la musique,
bonjour,
c'est ça?
Bonjour, pour être trompette. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes prêts. Au moment où je vous parle, On vient de terminer le chargement de 400 tonnes de Babybel sur le porte-avions Charles de Gaulle. Nous sommes prêts à larguer sur Istanbul au même instant que l'on parachute 3 kilos de vaches qui rient par habitant sur Ankara. Opération Frompton. Opération Frompton. Oui, l'opération Le Frompton est lancée. Je répète, l'opération Frompton est lancée. J'en ai un peu de colle dans les dents.
On le refait ou pas? Non, on ne refait pas.
Allez. Non, on ne refait pas. C'est nul. Pardon.
La Turquie a donc appelé une nouvelle fois au boycott des produits français.
Oui, bien écoutez, c'est donnant-donnant. J'appelle au boycott des produits du coup venant de Turquie. Voilà. On va boycotter la Turquie. Hein, soit donc on va boycotter tous les produits turcs que nous consommons. C'est-à-dire les fringues Zara, H&M et les WC à la turque, bien sûr. Française, français, retenez-vous.
Oui, bon, bah merci du conseil, monsieur Macron. Allez, bonne journée.
Non, monsieur Cabrol, ne partez pas, retenez-vous.
Alain, il est fou ce matin, je ne sais pas ce qu'il a. Alain Juppé est sorti de sa réserve ce week-end. Il a appelé à l'Union nationale contre l'islamisme. Eh bien, on va l'appeler nous-mêmes.
Oui, Conseil constitutionnel, bonjour Alain, votre écoute. Excusez-nous, nous sommes en plein travaux sur un plan de lutte contre l'islamisme. Je termine dans 30 secondes, ne quittez pas, je suis à vous, je vous fais patienter en musique. Merci d'avoir patienté, Alain, votre écoute, que puis-je pour vous?
Eh bien, on voulait revenir sur une de vos déclarations. Vous avez dit que l'Union nationale était possible si on évite, je cite, la chicaïa politique. Mais c'est-à-dire, Alain Juppé?
Attendez, pardonnez-moi, je reconnais cette voix. Vous êtes Julie?
Oui.
Ah, vous êtes Julie, pardon. Oui, alors pour répondre à votre question, pas de chicaïa politique, oui. Oui, il faut faire bloc contre ceux qui veulent nous diviser, à l'évidence, qui veulent la chicaïa. Qui sont quelque part donc identifiés comme des chicouillous. Et pour ces chicouillous, la bamboche, nous le disons, le bololo, c'est fini. Hein, il faut débololiser la société, empêcher le retour d'une forme de youplaboum, une forme d'insouciance, une forme de tagada de soin de soin.
Voilà. Bah, on a bien avancé. Merci, monsieur Juppé. Allez, on va revenir au président turc qui a appelé officiellement au boycott des produits français après les propos d'Emmanuel Macron qui défendait le droit à l'humour et à la caricature. Et il a ajouté, le président turc, que tout comme en France, certains disent « n'achetez pas les marques turques ». Bonjour Bruno Le Maire. Ah, c'est vous ça déjà
Oui. Ah, c'est vous. Oui. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard. Écoutez, bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Écoutez, au ministère de l'économie, pour nous, il n'y a pas de débat. Aucun Français ne boycotte les produits turcs. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas, il n'y a pas de produits turcs.
Ah bah oui, c'est vrai que comme ça, il n'y a rien qui nous vient, non?
Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai été, parce que je vais sur le terrain, je sors de mon ministère, je sais aller vers les gens. J'ai été dans un supermarché, j'ai demandé « Où est le rayon turc, s'il vous plaît, monsieur ?» Et on m'a conduit directement au rayon des biscuits apéritifs.
Ah bon?
Effectivement, là, il y a des tucs.
Oh non, oh là là, on ne va pas citer les auteurs aujourd'hui.
Oui,
non,
mais c'est j'ai
pas
une possible. Nuit courte, qu'est-ce que vous voulez que je vous
dise? Ah non, ça ne va pas là.
Vous pouvez citer les auteurs, s'il vous plaît.
On va boycotter les citations d'auteurs.
Dénoncez-les.
Allez, le président Erdogan a aussi dit une campagne de lynchage semblable à celle contre les juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. Mais qu'en pensez-vous, Bruno Le Maire?
Écoutez, c'est vrai que le drame des Juifs de 1939, c'était surtout Hitler, qui était déjà peintre, face des dessins. Hein, vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil. Et elle me disait, je m'en souviens, elle me disait que quand elle était dans un camp de concentration, ce qui l'a préoccupée par-dessus tout, c'était qu'Hitler fasse des fausses moustaches à des portraits de Moïse.
C'est vrai?
Mais non, c'est pas vrai! Oh là là! Vous voyez bien à quel point c'est quand un parallèle pareil?
Allons, oui, on avait compris.
Reprenez-vous,
oui, bon,
Madame Julie, je vous ai connu meilleur.
Merci Bruno Le Maire. Allez, pour terminer, encore un mot de ces supermarchés de pays musulmans qui ont retiré des rayons Le Caprice des Dieux ou le Babybel. La liberté de caricaturer suscite encore l'opposition générale de pays entiers.
Oh, ma Julie, oh mon Béliard ma saucisse, oui mon Béliard ma saucisse, je trouve ça très bien,
ma petite saucisse,
c'est bon, ça vaut bien les tucs, citez les auteurs, ils sont en forme.
Gérard Depardieu, alors, cette affaire vous fait réagir, on dirait. Hein.
Oh, moi, tu sais, moi, je suis pour la paix entre les peuples. Hein, hein, je trouve que les musulmans et nous, on devrait faire bloc, tu vois, ensemble, tous ensemble. Il y en a assez, des oppositions stériles, des chicayas, comme dit l'ami Juppé.
Mais c'est-à-dire s'opposer tous ensemble à la barbarie, c'est ça?
Bon, tu sais plus lire. Oh, mais chaud, c'est lunaire. Redis ta phrase, ce que tu m'as dit, j'ai rien compris.
S'opposer tous ensemble à la barbarie, c'est ça, Gérard Depardieu?
Non, 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 mais non, mais non. Tous ensemble, boycotter le Babybel et le caprice des dieux.
Ah, d'accord.
Mais oui, c'est pas du fromage, c'est de la merde, demande à Cabron. Faut pas seulement les dégager des rayons des supermarchés du Qatar ou de l'Arabie Saoudite ou je ne sais où. Faut faire la même chose chez nous, à Paris, à Marseille, en Mayenne, en France, partout. Hein, ce qui rapprochera le plus les peuples, tu veux que je te dise?
Oui.
C'est du bon fromage, du vrai. Tu vois, du camembert, du reblochon, du Saint-Nectaire, du Comté, du Beaufort,
oui,
du Morbier.
Bon,
je peux pas tous les faire, il y en a 362. Hein. Et j'invite tous les imams de mon quartier à faire une raclette, tu vas voir si on va pas s'entendre autour d'un tuc.
Allez, merci Gérard Depardieu.
Merci Nicolas Canteloup, merci Julie. Et saluons ce matin particulièrement Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur Europe1.fr. 8h57, Philippe Vandel est là, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Je sais pas ce qu'ils prennent les auteurs de Canteloup, mais est-ce que vous saviez que même les joueurs de billard se dopaient? Vous
non.
saviez ça?
Ah, mais à quoi?
C'est dans ce livre, vous apprendrez ça, ça s'appelle « À l'insu de mon plein gré », c'est les plus belles excuses de dopage médiatique. C'est complètement dingue, on apprend qu'un tennisman qui s'est fait choper dit qu'il a mangé trop de vos hormones, ça lui apprendra à reprendre du steak. On sera avec Manu Tissier et Christophe Duchiron qui ont écrit ce livre. Ensuite, le nouveau directeur de la rédaction du journal Libération, chargé par Patrick Drahi de remonter le titre, c'est lui qui a remonté le fameux journal Haaretz en Israël, et c'est un ancien du Mossad, vraiment un personnage à découvrir. Et puis enfin, la comédienne Pascale Arbillot, elle incarne la présidente du comité Miss France dans l'excellent film Miss, qui est sorti en ce moment.
Avec
Europe
1.
Voilà, et avec Europe 1, et qui marche très bien.
Merci beaucoup Philippe Vandel. Culture Média, la matinée continue de 9h à 11h. Pour ma part, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je reviens demain matin en direct sur Europe 1 dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.